Vous écoutez
RMC.
RMC.
Vous savez, quand vous prenez des buts, vous les prenez pas sur la largeur. Hein.
Alors évidemment, je vais pas dire que l'Australie est un cador européen.
Elle est là devant son public avec la possibilité d'être qualifiée pour le Final Four.
Les acteurs, ce sont les joueurs, c'est eux après sur le terrain. Entre eux, y a besoin qu'il y ait une évolution aussi en inter.
RMC, l'afterfoot.
Jean Mitour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after sur RMC à la radio, sur Afterfoot TV, sur les téléconnectés, sur YouTube également. La page de l'after, un after exceptionnel ce soir, spécialiste des Bleus pour la Coupe du Monde et documentaire sur Naïsna dans les deux heures qui viennent. Avec Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Avec Kevin Diaz, salut Kevin.
Salut à tous.
Alors, on va commencer par la liste dans une seconde, mais alors ne ratez pas notre spécial Naïsna dans quelques minutes. On va revenir en détail sur le doc
Netflix. Ah, ça t'a mis en feu, hein, Jean-Louis.
Bah, et toi, alors,
content de présenter l'émission ce soir.
Ça fait 48 heures que t'en parles, bien sûr.
T'es excité.
Je suis toujours excité, moi.
Extraordinaire.
Toujours à fond.
J'ai vu cet après-midi.
On dirait un ado qui va à son premier rendez-vous, non, hein, Jean-Louis.
Non, pas du tout. Donc, le doc Netflix. D'ailleurs, je parle sous ton contrôle, Daniel. Naïsna 2010, c'est une des périodes fondatrices de l'after. Donc, ça vaut le coup d'y revenir.
Fondatrice, on y est pour rien, nous. Hein. On l'a pris. Enfin, il y avait eu l'Euro 2008, quand même, qui était déjà un petit peu bouillant, mais Gilbert n'était pas là, tu sais, parce qu'il était parti faire fortune ailleurs. Mais la Coupe du Monde, oui, forcément, 2010 avec Roland, ça a été un moment qu'on a pris de plein fouet, pleine poire. Et ça a un peu d'ailleurs construit la légende comme quoi l'after c'était un peu du négatif, mais en fait on n'y pouvait rien, c'était les événements. Maintenant ça fait quelques années, c'est quand même complètement différent. Mais à l'époque, les Bleus c'était cata, quoi. C'était tout le temps triste quand on en parlait.
Et d'ailleurs, on a ressorti sur la page des podcasts historiques les afters mythiques. Il y en a certains, dont Naïsna, qui sont disponibles si vous voulez un peu plus tard aller écouter ça. Donc, y a des passages forts. On va en parler. Il y a quelques versions qui ressurgissent sur lesquelles on va donc pouvoir revenir. On vous attend d'ailleurs au 32-16. On sera avec Stéphane Kanga, le producteur du doc, et François Manardeau, l'ancien chef de presse des Bleus, qui est l'une des stars du documentaire. La liste, tout d'abord, Fabrice Hawkins est avec nous. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Alors.
C'est un peu lui qui l'a préparé. Hein. C'est après ses conseils que Deschamps a construit la liste.
N'exagérons rien.
Non mais c'est vrai, il faut se poser la question. Les infos tombent dans l'après-midi sur rmcsport.fr. Est-ce que c'est quand elles tombent que Deschamps change sa liste ou est-ce que c'est le contraire, tu vois?
Non. Je pense que Deschamps n'a pas besoin de moi pour la préparer et on essaye difficilement d'avoir les infos.
Mais on les a eu aujourd'hui. Alors Fabrice, donc les enseignements, donc pas de Camavinga. Présence de Maxence Lacroix et Mateta plutôt que Colomoigny, c'est ça les petites surprises?
Ouais, exactement, liste de 26, 9 défenseurs, 9 attaquants, 5 milieux et 3 gardiens de but, donc avec Robin Rissard préféré à Alphonse Areola et à Lucas Chevalier. On s'y attendait un petit peu, on en parlait déjà depuis quelques jours, hein, Lucas Chevalier qui paye son faible temps de jeu devant Mateta.
On s'attendait à Chevalier, Fabrice, mais est-ce qu'on s'attendait à Rissard? Parce que moi, lundi, quand on fait l'after à Valence, je rigole quand Gilbert dit ouais, Robin Rissard a dit il sera dans son canapé et tout ça, et j'ai rigolé en disant il peut rester longtemps dans son canapé. Honnêtement, moi j'y croyais pas du tout.
Même ces derniers jours, et même si hier, Daniel, on le disait, petite tendance Rissard, même si on pouvait pas vraiment l'affirmer, parce qu'encore une fois, il y a des choses, et notamment le fait qu'il soit jamais appelé, c'était pas rédhibitoire et on l'a vu, mais il partait pas non plus.
Pour moi, c'est ce que j'appelle une surprise. Un mec qui a jamais été appelé et qui débarque pour jouer à la Coupe du Monde, c'est ce que j'appelle une surprise, un truc inattendu.
Ouais, mais on l'a vu un peu venir, et notamment parce qu'Alphonse Areola et Lucas Chevalier ne jouaient pas. C'est pour ça qu'on s'y attendait un petit peu. La vraie surprise, en réalité, celle que personne n'a vu venir, et il y a encore 48 heures, on n'en parlait pas du tout, c'est Maxence Lacroix derrière. D'abord parce qu'on pensait qu'il allait choisir 8 défenseurs et non 9. Et ensuite parce que on s'attendait pas forcément à le voir là, participer à la Coupe du Monde, alors que c'est vrai que sur le dernier rassemblement, il était très bon, mais il n'avait pas été appelé avant. Et
c'est en un rassemblement et en un bout de match que tu gagnes ta place, tu vois, c'est ça. Est-ce que c'est pas également dû à peut-être une pénurie en défense?
Non, moi je pense que là où ça s'est joué pour lui, je pense que c'est les faibles performances d'Eduardo Camavinga et le fait qu'il a décidé de pas le prendre. Parce que je pense que si Eduardo Camavinga est installé avec le Real Madrid, il part à 6 milieux et avec 8 défenseurs.
Ouais, mais là on parle d'un défenseur. Là,
il a changé la structure de la liste. C'est pour ça que je parle d'Eduardo Camavinga, parce qu'il prend la place de personne derrière.
C'est ça qu'il faut dire. Et puis derrière, il prend la place de personne. Mais est-ce qu'on en a tant que ça, parce qu'on en a des très bons, on est tous d'accord, Upamecano, Saliba, Konaté, c'est du lourd. Mais quand t'es obligé de prendre les frères Hernandez qui ne jouent plus, puisqu'on parlait de joueurs qui jouent ou qui ne jouent pas, ou ceci, cela, bah, finalement, on n'en a pas tant que ça des défenseurs.
Bah, c'est une très bonne remarque.
En poste d'arrière gauche, on est fait place, par exemple.
Non, mais tu as tout à fait raison, notamment au poste d'arrière gauche. Après, on parlait de, juste avant, avec les garçons de la génération after, on parlait de cette capacité à Didier Deschamps à prendre certains joueurs pour le fait qu'ils soient bien dans le groupe et qu'ils mettent la bonne ambiance entre guillemets. Hein. Je me demande dans quelle mesure un garçon comme Lucas Hernandez n'y va pas aussi parce qu'il est très apprécié dans le groupe et parce qu'il met du lien et parce qu'il connaît bien Didier Deschamps et qu'il est dans le groupe depuis longtemps.
Non mais pour Maxence Lacroix, moi je trouve pas que c'est une si grosse surprise dans le sens où avec la méforme de certains comme tu as dit en défense, c'est quand même un gars qui t'as une place en plus pour emmener quelqu'un. Didier Deschamps a choisi de l'emmener lui. C'est un gars qui fera pas de vagues. C'est un gars qui est très content d'être là, qui fait une belle saison, qui a fait une belle prestation lors du dernier rassemblement. Donc maintenant, c'est vrai que l'absence de Camavinga. Peut-être pour un rôle éventuel.
Mais normalement, c'est 4 défenseurs centraux. Hein. C'est 2 doublés.
C'est, ça en fait,
quatre,
c'est pour ça que c'est une surprise. C'est la structure
c'est
ça, de
mais, oui, mais Kevin, bien il sûr. Dit que c'est pas une surprise. Lui, tu sais,
non, mais c'est pas une surprise de le voir lui, en tout cas.
Il comprend la construction des groupes. D'habitude, c'est 4. Là, il y en a 5, Kevin.
Dis pas pour lui, aujourd'hui, un défenseur central, il peut largement jouer sur le côté. Et un Lucas Hernandez qui joue très, très rarement, très, très souvent en latéral gauche avec le Paris Saint-Germain pour suppléer Nuno Mendes, il considère que pour lui.
Non, mais là, t'en as déjà 2 des arrières gauche.
Je sais bien.
Et Théo Hernandez.
Son truc, c'est
Lucas
triplé.
Hernandez.
Donc on a.
Lucas Hernandez.
Non, mais la vérité, c'est qu'on a un mec en plus.
Lucas Hernandez,
la vérité,
c'est pour lui, c'est aussi un arrière gauche potentiel.
Non, mais t'as un mec central. En plus derrière, tout simplement. Il faut le dire. Normalement, t'avais 2 arrières droits, 2 arrières gauche, 4 centraux. Là, t'en as un en plus, c'est tout.
Oui, mais t'en as un en plus, dont un qui est très polyvalent.
Ah bah, de toute façon, la polyvalence est le grand truc de Deschamps, puisqu'il veut que chaque poste soit couvert par 3 personnes.
Exactement.
Donc ça, il l'a bien redit.
Donc, c'est normal de prendre Lucas Hernandez et de prendre 3 joueurs pour le poste potentiel de latéral gauche.
L'autre joueur qu'on n'attendait pas forcément, on l'a entendu tout à l'heure sur les antennes d'RMC, c'est Jean-Philippe Mateta, qui est appelé et qui est préféré à Randal Kolo Muani.
Pour moi, ça, c'est une surprise.
Ça aussi, on l'a pas vu venir, très honnêtement. On pensait que le statut de Randal Kolo Muani lui permettrait de disputer cette deuxième
Coupe
du
justement.
Monde.
Moi, je trouve que là, le mérite est récompensé.
C'est
on
sûr.
On n'est pas dans le truc du statut parce que t'as un gars qui a disparu, même si en équipe de France, bah, il faut bien dire qu'il a jamais vraiment démérité, hein, en remplaçant et qui fait quelques différences. Mateta, il a pas de référence, mais au moins, enfin en bleu, mais au moins en championnat, c'est un mec qui a joué, qui a fait son trou là où il est, qui a fait parler de lui, qui quand il est venu en bleu, bah pas du tout été mauvais. Donc là, j'aime cette récompense, j'aime ce côté méritant pour lui.
Ça s'applique et sur Mateta et sur Lacroix. C'est que souvent on dit les matchs de préparation avec Didier Deschamps ou les matchs précédents ils servent à rien. Eux ils ont été plutôt bons dans ces matchs-là.
Ils ont quasiment gagné leur place.
Ils servent à rien pour nous qui les regardons, mais pour eux ça sert à quelque chose.
Bah oui et non Daniel, parce que parfois, et tu l'as dit, Deschamps a fait des choix par fidélité et par tradition de groupe plus que sur les performances. Là ça a un peu évolué.
Moi, en tout cas, si on regarde cette liste, à part l'absence, et on va peut-être en parler rapidement, mais de Tolisso, mais qui n'est pas une surprise puisqu'il n'est pas appelé depuis des lustres, mais aujourd'hui, c'est un des meilleurs milieux de terrain français. Donc, pour moi, là, ça aurait été complètement logique qu'il soit pris. Maintenant, pour le reste, je l'aime bien, en tout cas, cette liste. Elle est vraiment intéressante. La présence de Mateta pour le mérite, la présence de Lacroix, parce que pour moi, c'était toujours dommage de pas prendre le nombre de joueurs disponibles pour avoir le maximum de joueurs possible en cas de blessure, en cas de pépin.
Voilà, un match en plus, ça dure plus longtemps. Là, c'était normal de faire le plein à 26.
Oui. Ouais, mais bon, on n'en était pas sûr. Hein. On n'en était pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il en prendrait que 25.
En tout cas, il y a un truc quand même, c'est qu'on est donc 26, mais il y a que 5 milieux de terrain.
Ouais, ça
confirme bien la tendance. Donc, il y aura 4 attaquants à la Coupe du Monde. Deschamps l'a toujours dit.
Là, ça,
mais
c'est
encore confirmé.
De prendre 5 milieux de terrain, ça veut clairement dire qu'il va jouer avec un double pivot, avec 2 joueurs devant, juste devant la défense, et que donc on va avoir 4 joueurs à vocation offensive.
Après, donc ça, c'est le message pour vous. C'est le message qu'ont envoyé. C'est ça.
Oui. Et ça fait un petit moment de toute façon.
J'aime ce message, mais comme à chaque fois on y croit et on est déçu, je.
Bah, en tout cas, ça n'empêche pas, Daniel, qu'il va pas finir.
Ça n'empêche pas de jouer des matchs avec deux joueurs à vocation défensive, en tout cas des milieux de terrain de formation, et puis un numéro 10 qui peut être Cherki, qui peut être Doué, qui peut être Olysé. Et dans ce cas-là, t'as 3 milieux de terrain, mais t'as quand même un joueur sur les 3 qui est très très offensif.
Bah, rien n'empêche aussi avec 5 milieux de terrain de faire des matchs avec 3 milieux de terrain au coup d'envoi et d'enlever un offensif.
Exactement.
C'est pas interdit non plus. Alors, t'as parlé de Tolisso, Kevin. On a Maxime au 32-16 qui est supporter lyonnais qui veut parler de cette absence. Salut Maxime.
Salut les gars.
Salut Maxime.
Salut Maxime.
Toi, tu comprends que Tolisso soit pas là?
Alors, je peux le comprendre, d'autant plus que maintenant, bah, il y a un milieu de terrain en moins. Donc, avec 5 milieux, en fait, bon, moi qui suis quand même bien l'OL et tous les matchs de Corentin Tolisso, en fait, je le vois pas forcément sur un double pivot. Corentin, Coco, comme on l'appelle chez nous. Ouais, il joue plus haut. Il a joué contre Rennes en double pivot avec Morton, mais il y avait Mera sur en pointe haute. Et si tu veux, Mera, c'est quelqu'un qui défend énormément. Donc, moi, je l'incompare. Je le mets, si tu veux, un peu en milieu de terrain. Donc, je vois pas forcément jouer en double pivot. Donc, je veux comprendre qu'il soit pas dans les cinq. Et après, moi, j'ai pas la prétention de savoir le niveau d'N'Golo Kanté. Je rate pas ses matchs. Donc, je sais pas si aujourd'hui, N'Golo Kanté, c'est plus fort que Corentin Tolisso. J'ai pas cette expertise-là. Mais je peux comprendre, si tu veux, dans le groupe.
N'Golo Kanté, il le prend pour le passé, la personnalité, ouais, voilà. la vie dans le groupe.
Et puis, il est bon avec l'équipe de France.
Je sais pas s'il l'imagine en titulaire. A priori.
Non.
J'ai envie de penser que non. Mais il le prend pour plein de choses. C'est un soldat, c'est un mec qui ne te lâchera pas, quoi, N'Golo Kanté. Après, c'est une personnalité qui est un petit peu plus forte. Et je suis pas sûr que Deschamps avait envie de ça dans son groupe.
Ah, mais quand même, quand tu vois ce qu'il fait avec l'Olympique Lyonnais, le nombre de buts.
Pas ça à moi. La saison, c'était depuis un mois, tout le monde me rigolait au nez quand je disais que Tolisso était un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1 et qu'il fallait qu'il aille en bleu.
Non, mais on te rigolait pas au nez sur la qualité du joueur. On te rayonnait des fois sur le fait que tu l'as dit très très tôt, mais qu'on voulait quand même voir s'il arrivait malheureusement pour lui à enchaîner les matchs sans se blesser.
Ben, mais moi, tu sais, j'aime quand on finit par être d'accord, Kevin. Ne t'inquiète pas.
Mais ça serait plus, excuse-moi, mais moi je voyais plus éventuellement peut-être à la place d'Akliouche, mais pas forcément en fait au milieu de terrain. Parce que,
je suis d'accord, j'aime bien cette proposition.
Ouais,
oh, ouais, j'aime bien cette proposition.
Moi, je le vois pas forcément en double pivot, et c'est un joueur, c'est soit un 8, soit un 10. Il attaque énormément et il a plus de stats offensifs que de stats défensifs. Donc, l'incorporer au niveau des attaquants. Moi, je l'aurais plus vu, je le mettrais plus, si tu veux, en comparatif avec des attaquants qu'avec des milieux, parce que c'est vrai qu'il y a les cinq milieux.
Reste quand même un milieu de terrain de formation et quelqu'un qui peut jouer en faux neuf.
Kevin, il joue pas pour regarder vraiment tous les matchs de l'OL, en double pivot, je le vois pas jouer en double pivot.
Non, mais c'est pas une question de double pivot. Quand t'es milieu de terrain, t'es milieu de terrain. Peu importe que tu sois double pivot, depuis un numéro 10, ça reste quand même un milieu de terrain. Donc, aujourd'hui, pour moi, Ryan Cherki, c'est un milieu de terrain. Mais il peut aussi jouer sur un côté.
Ryan Cherki, il est dans les attaquants.
D'accord, mais c'est pas parce qu'il est dans les attaquants pour Didier Deschamps qu'il est dans les attaquants pour Kevin Diaz.
Ah
ouais, bah. Pour moi, c'est un milieu
de Oui, d'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas toi qui dirige l'équipe de France.
Pas encore,
tu vois.
Malheureusement.
Pas encore.
Merci Maxime, à très
Merci
vite.
Merci à vous les gars.
D'ailleurs, c'est vrai qu'on se penche un peu sur ton dossier, Kevin, quand même.
Ouais, un peu plus tard. Bah, un peu
tout
plus
ce
tard.
Que tu réalises dans tes divisions et tout, là, va falloir quand même que des clubs pensent à te contacter.
T'inquiète pas, il y a déjà la commission de discipline qui se penche sur son cas.
Ah bon?
Non. C'est pas la commission de discipline?
Non, c'est pas la commission de discipline.
D'accord, la commission des compétitions, non?
T'inquiète pas, tout va bien.
Non, mais c'est rien, c'est juste un petit problème de paperasse administrative.
De fax qui est tombé derrière l'armoire.
Je te parle de potentiel, moi. À un moment, il va falloir quand même qu'un club pro se penche sur toi.
Le potentiel, tout le monde le voit.
Pas faire de la pub, mais.
T'inquiète pas,
il fait de monter et que là, samedi, si ça rigole, il se retrouve en national, c'est pas rien, quoi.
En Ligue 3,
avec des clopinettes de budget qu'il a.
T'as raison. Le nouveau Louis Campos.
Il est même pas foutu de payer un hot dog quand il va. Donc, il y a les moyens, il n'y en a pas des masses, mais.
Tu es plus le football amateur et on te remercie, Daniel.
C'est vrai qu'il n'y a pas de hot dog.
Si, il y avait
des moyens. De très mauvaise qualité.
Je vous rappelle que ce n'était pas notre stade.
Oui,
dans notre stade, il y a tout ce qu'il faut.
Et ça, c'est pas notre problème. Nous, on est consommateurs, clients, on vient assister à un spectacle et on est déçus. Voilà comment.
Non, tu n'étais pas déçu.
L'expérience client est ratée. Voilà, l'expérience stade. Bon, il y a eu conf de Deschamps. Donc, pour expliquer sa liste, vous l'avez entendu en longueur dans Génération After. Deux choses sur lesquelles vous avez parlé hier. Déjà sur Théo Hernandez, donc, la fameuse vidéo, il a été interrogé là-dessus. Il a dit, elle date de 2020, la vidéo avec les ballons, etc. Donc c'est pas un sujet, c'est pas ça qui va m'empêcher de le prendre. Je lui en avais parlé à l'époque, a dit Deschamps. Et puis il a été interrogé sur la prise de position de Kylian Mbappé. Flo Gautreau en a fait un avis hier et Deschamps en a parlé en tant que capitaine. Est-ce qu'il peut s'exprimer? Est-ce qu'il va être amené à le faire pendant la Coupe du Monde?
Déjà, un, je vais pas juger les joueurs. Deux, il y a une liberté d'expression. Elle est valable pour vous, elle est valable pour mes joueurs. Ils savent très bien qu'il y a des sujets sensibles. Ce sont des citoyens. Après, qu'est-ce qui se passe? S'ils parlent pas, pourquoi il parle pas? Et s'il parle, pourquoi il a parlé? Ah, il y aura des pour, il y aura des contre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, ce qui m'intéresse, c'est Kylian. Ce qu'il est, le footballeur qu'il est. Si moi, vous me demandez, jamais je vous dirai, parce que j'estime que... Mais je dis pas qu'il faut faire comme moi. Voilà, chacun a sa liberté. Forcément, ça amène après à des débats.
Voilà. Voilà, donc
La liberté, excuse-moi Jean-Louis, oui. La liberté d'expression, c'est la géométrie variable dans le concept Deschamps, puisque je rappelle quand même que la mienne, en tout cas, il ne l'accepte pas. Il est prêt à aller au tribunal pour me la contester.
Exactement, oui, bien sûr.
Oui. Donc, quand il a regardé la salle de presse et qu'il a dit « Vous avez votre liberté », ben non, monsieur, c'est pas vrai. Mmh. Non, c'est pas vrai, parce que vous décidez d'accorder ou non des interviews, par exemple à RMC, parce que comme il peut pas nous blairer, eh ben il emmerde nos journalistes, donc il met à mal notre liberté d'expression. Et moi, il est allé beaucoup plus loin, puisqu'il m'a carrément traîné jusqu'au tribunal. Même s'il a perdu, peu importe, ça m'a quand même causé des soucis pendant pas mal de temps de me préparer. Mmh. Donc, qu'il vienne pas me donner une leçon de liberté d'expression, pas lui, quoi.
Effectivement.
Et pas non plus son attaché de presse qui fait barrage à tous nos journalistes à chaque fois et qui fait bien en sorte que si on demande quelque chose, c'est un peu plus compliqué que pour les autres.
Alors, il y a une Coupe du Monde à faire quand même, Daniel. Je précise que ça s'est un peu amélioré quand même avec le staff de l'équipe de France concernant les suiveurs.
Il serait temps, voilà. Tant mieux.
Donc voilà. Et puis alors juste, si t'as pas suivi toute la conf en détail, Daniel, je t'annonce quand même que Deschamps en Italie, c'est tout à fait possible pour la suite. Parce qu'il a rappelé plusieurs fois, même à Gilles Boulot, qu'il ne prenait pas sa retraite. Il y a eu une question d'un journaliste italien. Donc, est-ce que un retour en Italie est possible?
Oui, il a dit que tout était ouvert.
Donc, en Italie, pour
j'allais proposer à Daniel, sélectionneur de l'Italie.
Ça te passe à sélectionneur de l'Italie.
C'est génial, Daniel.
Alors honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que tu me dis ça. Je te le dis avec tout mon cœur, je le vivrai comme un drame personnel. Voilà. Que je te dise. Je te le dis sincèrement. Je te le dis sincèrement. Vraiment, c'est sincère. Je sais que c'est fort possible parce qu'il a un passé ici et qu'il connaît bien, et qu'il a été à la Juve et qu'il est connu et tout. Mais je le vivrai comme un drame perso. Voilà, ça veut rien dire, hein, ça n'est que mon avis. Hein. Tout le monde s'en fout, évidemment.
Et encore, t'es pas en train d'imaginer si ça se passe bien et qu'il redresse la sélection.
et qu'il gagne l'Euro ou la Coupe du Monde.
Ah ouais, là, ce sera encore plus qu'un drame personnel.
Bon, écoute, après tout.
Merci Didier, on oublie tout, quoi.
Ça serait juste un salarié, tu vois. Il serait salarié de la fédération. Bon, voilà, c'est tout. Il aura bien travaillé. Mais je veux dire, d'un point de vue humain, je le verrais comme un drame personnel. Mais bon, ça ne veut rien dire. Ça n'est pas un sentiment personnel.
Ça
ne compte pas.
Ce qu'il a dit sur Kylian Mbappé, on voit vraiment que c'est un joueur qu'il apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, du coup, elle en devient particulière. Nous qui supportons l'équipe de France, forcément, j'aimerais bien voir quand même cette équipe aller très très loin et voir ensuite un Kylian Mbappé lever la Coupe du Monde. Je trouve que ce serait une très très belle image.
On arrête sur les Bleus, Fabrice. Merci beaucoup. Merci aussi pour le boulot avec les invités dans Génération.
Avec plaisir.
Tout à l'heure, Ibrahima Konaté, Malo Gusto et Jean-Philippe Mateta. Vous pouvez retrouver ça. Non, j'ai dit une bêtise. Non, si c'est ça. Vous pouvez les retrouver en podcast, bien sûr.
C'est fini sur les Bleus, Jean-Louis. On dit plus rien. La liste et tout, c'est orange.
Je pense qu'on a fait le tour.
Si tu veux t'amuser après avec le sujet, il faut laisser la place. Hein.
Avec Naïsna. Ça arrive dans une seconde. Problème. Merci Fabrice. Les réactions aussi sur rmcsport.fr. Et dans une seconde, Naïsna, on se replonge il y a 16 ans dans le plus grand fiasco de l'histoire du rugby français. A tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
22h21, c'est l'after avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz. On ouvre donc le grand chapitre Naïsna, puisque vous l'avez peut-être vu depuis hier. Le documentaire sur Netflix, Le bus, les bleus en grève, est sorti et fait beaucoup parler. Il y a énormément de choses à dire autour du documentaire. On va dire ce qu'on en a pensé, hein, Daniel, Kevin. Vous allez pouvoir venir au 32-16 pour donner votre avis. Et puis donc, on va pouvoir interroger nos invités. Stéphane Kanga, producteur du documentaire, est avec nous. Salut Stéphane.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
Merci d'être dans l'after. Et quelqu'un qui connaît par cœur RMC, puisqu'il y a travaillé après donc ce rôle de chef de presse des Bleus. Après le fiasco, il a fallu l'aider à remonter la pente.
François Manardo. Il est venu dans une boutique qui tourne.
Salut François.
Bonsoir. Ma première dans l'after, c'était en 2014. Daniel était là. C'était pour présenter mon livre, Nice Now, qui est toujours la boîte noire de ce qui s'est réellement passé en Afrique du Sud.
D'accord. Alors, tu interviens dans le doc, comme plein d'autres personnes, mais il y a un axe quand même très important, c'est l'axe Patrice Evra, Raymond Domenech, dans ce documentaire. Comment ça s'est passé pour le choix des intervenants? Est-ce qu'il y a eu un angle, une idée générale de donner beaucoup la parole à ces deux personnes-là, ou est-ce que la démarche était plutôt de trouver un maximum de clients et vous avez fait avec ceux qui ont bien voulu accepter?
En fait, effectivement, il y avait un angle qui était clair. Nous, pour nous, c'était de pouvoir redonner la parole à toutes ces personnes qui avaient été muselées il y a 16 ans, qui n'avaient pas pu s'exprimer, dont on n'avait pas vraiment eu l'écho de ce qu'ils avaient ressenti, de ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là. Il faut rappeler qu'à cette époque, tout ce qu'on avait, c'était pour la plupart cette image de ce bus arrêté sur la pelouse, un peu les ressentis ou bien les paroles des médias un peu généralistes sur le propos, mais que les acteurs eux-mêmes n'avaient pas eu en tout cas l'occasion de s'exprimer comme ils souhaitaient.
Bah, c'est qu'ils ne voulaient pas surtout, c'est pas qu'ils n'ont pas eu l'occasion, c'est qu'ils sont restés muets volontairement. Nous on a même travaillé avec certains d'eux, c'était un sujet qui était inabordable. Thierry Henry est allé rencontrer Sarkozy, on n'a pas eu un mot de ce qui s'est dit et de ce qui s'est passé. C'est pas vrai qu'ils ont été privés de parole, c'est qu'eux ont volontairement pas voulu parler. Ah, et oui, d'ailleurs j'imagine qu'il y en a plein qui n'ont même pas voulu parler dans le doc. Thierry Henry a refusé, Nicolas Anelka a refusé, Franck Ribéry a refusé, la plupart ont refusé, c'est un sujet sur lequel ils ne veulent pas revenir.
Non, je suis
maintenant
pas
peut-être que comme le doc est sorti et qu'il fait parler de lui, peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont sortir du bois. Patevra est ressorti encore une fois du bois, c'était un des seuls qui a bien accepté, mais la plupart ont refusé de parler, toute leur vie ils ont refusé. Toulalan, je sais même pas où il est dans un trou, on n'entend plus jamais parler. Johan Gourcuff, ça a plombé sa vie,
il en a jamais
fait.
Il y a un truc de pour aller dans le sens de Daniel, c'est que Nico Anelka, on a bossé avec lui à RMC dans l'émission de Jérôme
Bretel,
il a mis pour le coup des années à en parler.
Effectivement. Non mais attention, moi je suis pas d'accord avec ce que Daniel dit dans la mesure où non, c'est pas effectivement, oui, juste après Nice Nine, ils n'ont pas parlé parce que c'était inaudible pour eux. Il y avait une vindicte sur eux qui disait que c'était des gamins, c'était des caillis, qui faisaient pas des gamins apeurés, qu'ils étaient des millionnaires, qu'ils n'avaient pas eu le droit, c'était une honte. Et donc pour eux, ils avaient juste envie de quitter Paris, de se faire oublier.
Oui, de faire la grève, c'était une honte. Maintenant, il y a des circonstances et on explique et on sait et on découvre des choses dans le doc, notamment le fait que la Fédé et Domenech ont maintenu la version de l'équipe alors que c'était faux. Donc ils ont menti ouvertement, donc ils les ont mis dedans. Clairement, ça c'est leur faute d'avoir mis les joueurs dedans. Après, eux ont eu une réaction qui également pouvait susciter beaucoup de critiques. La grève, ils l'ont malgré tout faite quand même.
On va y revenir en détail tous ces épisodes, bien sûr, hein, on va prendre le temps. Est-ce qu'on peut, sur certaines questions générales, avant de rentrer dans le détail du doc, est-ce que il y a plusieurs personnes, dont Raymond Domenech, qui sont pas contents de la tournure du doc, l'équipe aussi, on en reparlera en détail, mais est-ce que vous attendiez à un tel accueil des acteurs de l'événement?
On est un peu surpris sur pas l'accueil des protagonistes en eux-mêmes, mais pour nous, on a juste relaté le récit qu'ils ont fait tout au long des interviews.
Est-ce qu'ils ont pu voir le doc?
Non.
Alors, Domenech dit d'ailleurs que c'est le problème. Hein.
Personne n'a vu, je pense que François peut
répondre. Aucun d'entre nous n'a
Est-ce qu'ils l'ont demandé?
Cloisonner les choses.
Pour certains, ils ont demandé à le voir, mais on leur a expliqué que c'était pour une certaine vérité, une certaine étiquette, qu'on ne pouvait pas montrer à d'autres, et à certains et pas à d'autres.
Alors, Domenech dit, parce qu'il a fait un long communiqué aujourd'hui, en parlant de trahison, qu'il se sentait meurtri, trahi, que ce doc, ça résonne comme un viol de son âme, un vol de ses émotions d'un moment, et il dit, ma participation était conditionnée à un droit de regard sur tout, et ça m'a été refusé in fine, en toute impunité et avec la plus grande malhonnêteté.
Écoutez, par rapport à ces propos, je ne vais pas les commenter en détail, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous avons échangé avec Raymond Domenech à plusieurs reprises avant qu'il accepte de participer au documentaire. Nous sommes très à l'aise avec la manière dont nous avons mené la gestion de ces passages dans le documentaire, d'autant plus que nous avons eu à poser plusieurs fois le sujet du journal intime avec lui. Pour être dans la confidence, on a même échangé avec lui au demeurant en lui disant s'il n'était pas à l'aise avec certaines choses, s'il avait besoin de prendre du temps. On lui nous a dit, écoutez, avant de vous donner le document, il nous a dit, laissez-moi un peu de temps pour élaguer ce que j'estime.
Là, on parle du journal intime.
Pour
ceux qui n'ont pas vu le doc,
le journal intime, c'est ce qui l'affaiblit le plus. C'est ce qui le rend à la limite méprisant, méchant, qui lui donne le rôle du méchant.
Sale mec. Il faut préciser.
De mon point de vue, c'est quand même un petit peu ce qu'il est dans l'histoire. Mais il faut quand même dire que il vous l'a vendu le journal intime.
Attends juste là-dessus, Daniel, et après Stéphane répond à cette question précisément. Pour ceux qui n'ont pas vu le doc
aujourd'hui, alors qu'il l'a vendu,
le journal intime, c'est des
des extraits de ses notes qu'il prend sur le moment et qui rythme en fait le doc. Et dedans, il y a un vocabulaire très cru. Il y a des insultes qu'il écrit contre Nicolas Nelka.
Disons quelques-unes, Jean-Louis. Disons quelques-unes.
Voilà, bah, j'allais le faire. Donc, il parle donc en ces termes de Nicolas Nelka en disant que c'est un gros con. Il parle de Johan Gourcuff en disant que c'est un autiste léger et ensuite un con. Parce que ça vient à plusieurs moments. Il parle des journalistes aussi sur une conférence de presse en début de compétition en disant, en gros, j'avais le sourire pour cette conférence de presse. Un bon fils de point, trois petits points, dans le rôle qu'il avait à ce moment-là. Et donc, ce journal intime, effectivement, on n'arrive pas à comprendre comment il peut dire aujourd'hui, dans son communiqué, j'ai ouvert ma vie intime, ces notes n'auraient jamais dû être publiées telles quelles.
Bah oui, alors qu'il a vendu.
Il faut poser la question à lui, je ne peux pas répondre à sa place. Nous, en tout cas, on a été en toute transparence. On a toujours été sincère et honnête dans toutes nos démarches. On a eu une discussion claire, franche, où on lui a laissé le temps. Il a dit, je vais enlever de mon journal les choses que j'estime personnelles sur lesquelles je ne veux pas communiquer. Il nous a remis 394 pages. Je les ai toutes lues. On a été très clair. Il savait exactement ce qu'on allait faire de ce journal. Donc aujourd'hui, ses propos, je les laisse à lui de les commenter.
Ça, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, ça n'arrive pas par hasard, ce truc-là. À partir du moment où il le donne, un journal intime, par définition, ça s'appelle c'est l'intimité. Mmh. Normalement, ça sort jamais d'un tiroir, ça sort jamais d'une chambre, ça sort jamais d'une maison. Là, c'est sorti d'une maison, c'est tombé dans les mains d'un producteur de documentaire. Derrière, tu peux pas venir chouiner comme quoi on a violé ton âme. Ça, je suis pas d'accord avec cette version. Et j'insiste parce que visiblement, bon, peut-être que tu ne voudras pas répondre, mais ça a été vendu en droit d'auteur.
Alors, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas m'exprimer sur le sujet.
Non, mais ne dis pas la somme, mais dis oui, ça suffira à faire.
Ah non, si c'est le cas. Non, en tout cas, moi, je peux être très clair sur une chose. Est-ce qu'on a eu à faire des achats sur ces archives personnelles? Oui. Est-ce qu'on a fait des achats sur le droit de son livre? Oui. Mais encore, aujourd'hui, c'est pas à moi de dire les montants ou quoi qu'il en soit.
Non, mais moi, je t'ai même pas demandé les montants. Le fait qu'il ait vendu ça en droit d'auteur, par rapport aux critiques qu'il a émises aujourd'hui.
Ouais.
Voilà quoi.
Et est-ce que les gens touchent de l'argent, les intervenants touchent de l'argent témoigner?
Non, pour témoigner, personne ne touche d'argent.
Donc c'est que des archives. Donc le journal intime.
Totalement. Dessus, on est très clair, il n'y a aucun problème là-dessus.
Ok. Ouais.
Moi, j'ai quand même une remarque sur le documentaire, puisque là on parle de Raymond Domenech.
Bien sûr.
Quand il a fait, et même François qui a travaillé avec lui à ce moment-là. Et là, en fait, on presque, si je comprends bien son communiqué, Jean-Louis, il regrette d'avoir fait le choix de laisser presque les...
Oui,
mais en fait, il regrette d'avoir lu la lettre aussi. Il regrette de ne pas être intervenu à un certain moment.
Il regrette d'avoir pris les clés du bus aussi.
Voilà, il regrette d'avoir pris les clés du bus, de pas avoir... Non, mais, donc il y a quand même... Non, mais je souris pas, moi, je suis très sérieux. Je pense que dans l'émotion et dans ce tourbillon et cette tempête monstrueuse que pour François, pour Raymond Domenech, pour les joueurs, pour tous les acteurs, ou même pour Duverne...
La tempête, il la déclenche quand même.
Non, mais
qu'il la déclenche ou pas, c'est pas un souci. Je te dis juste que ça ne m'étonne même pas que là il regrette maintenant d'avoir donné peut-être le journal ou que certaines choses soient sorties. Mais il y a quand même un problème de jugement et de choix.
En 2004 surtout.
Comment?
Ce qu'il aurait dû regretter, c'est de devenir sélectionneur, parce que c'était pas fait pour lui, tout simplement.
Ah, j'ai l'impression que ça, il le regrette pas, en tout cas.
Franchement, on a bien
constaté tout au long du mandat que c'était pas fait pour lui, parce qu'il ne le prenait pas pour des bonnes raisons. Enfin, son parcours, il faut le rappeler. Bon, alors, je voudrais quand même dire à notre invité que moi, le doc, je le trouve essentiel et qu'il faut le voir, que
on peut
le critiquer, que pour des gens qui, comme nous, connaissons l'histoire, avons été dedans, on a bossé dessus, oui, il manque des éléments de contexte, il y a plein de choses sur lesquelles on peut revenir, mais dès qu'il est sorti, je me suis mis dessus, j'étais scotché. On doit, si on a vécu cette période, et même si on l'a pas vécu, qu'on est trop jeune, aller voir ça. C'est un des plus grands moments de l'histoire du football français, un moment négatif, oui, mais il faut absolument voir ce doc. Après, on va parler dans un instant, il y a des choses qui manquent, des éléments justement sur le passé avant 2010 de l'équipe de France, des échecs qui fait que, contrairement à ce que vous dites peut-être dans le début du doc, quand vous présentez les joueurs qui composent cette équipe en disant, c'est une grande équipe, c'est ceci, c'est cela, c'est formidable et tout ça. Non, il y avait énormément d'éléments avant la Coupe du Monde qui pouvaient peut-être pas ce genre de fiasco, mais un échec, c'était parfaitement envisageable parce que les joueurs ne s'emboîtaient pas entre eux.
Quand même.
Il y avait
Avec le Capitana donné à Evra et pas à Gala.
Ah, ça arrive après. Mais sur le tout début, c'est vrai que l'équipe de France est présentée comme de grands joueurs.
Qui peut être favorite et tout, c'est pas vrai.
Oui, mais
c'est pas vrai. Thierry Henry est au bout du chemin. Il devait même pas être.
Il y a 2008 aussi.
Pardon.
Il y a l'Euro 2008. Il y a. Oui, oui.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'Euro 2008 est un échec terrible. Je rappelle quand même que Domenech doit être viré à la fin de l'Euro. Et s'il n'est pas viré, c'est parce que Bernard Laporte, qui est ministre à l'époque, reçoit Jean-Pierre Scaletti. Il lui dit, bon, c'est bon, tu me le dégages parce que ce qu'il a fait avec l'histoire de la demande en mariage, c'est terminé. Et Scaletti a dit, OK. Bernard Laporte lui dit, attends, excuse-moi, si tu pars, tu pars aussi, hein. Et là, Scaletti, pour sauver sa peau, parce qu'il voulait pas partir aussi, il a habilement manœuvré pour que Domenech reste. Déjà, là, on est en situation d'échec.
Ouais, Daniel,
attends, je crois que François est pas d'accord.
Daniel, bon, c'est pas que je suis pas d'accord.
Moi, c'est, je le tiens de Bernard Laporte en personne, donc excuse-moi, mais bon.
Moi, je le tiens de Jean-Pierre Scaletti.
Jean-Pierre Scaletti, excuse-moi, il a voulu sauver son cul.
Qu'il ait eu ce réflexe, mais il décide très vite et seul. Alors, il a eu sans doute Bernard Laporte. Moi, j'ignorais ce détail que tu donnes. Mais il décide très, très vite, très rapidement. Je pense qu'ils sont encore en Suisse quand ils décident qu'il veut maintenir contre vents et marées et surtout contre le fameux lobby France 98 qui veut maintenir Raymond.
Oui, sauf mais après Laporte lui dit écoute c'est pas possible avec ce qui s'est passé et tout machin et là il dit bon ok d'accord on peut s'en séparer mais il faut que tu partes aussi et c'est là que l'histoire que je t'ai racontée. Donc il y a les qualifs sont cata avec le France-Irlande le dernier match au Stade de France qui est une honte absolue. Il y a ce contexte là n'oublions pas qu'il y a tout ce qui se passe autour de Ribéry dans l'affaire Zaya qui fragilise beaucoup le joueur.
Attends juste Daniel, tu passes vite juste sur la main, j'ajoute un truc dans le doc, il y a il y a pas de souci, juste pour compléter, il y a 8 Français sur 10 qui disent que la France ne mérite pas d'y aller à ce moment-là après la main de Thierry Henry.
Mais c'est normal,
c'est pour représenter. Ah non, c'est pas normal,
mais c'est pour représenter, on est l'équipe nationale, on est l'équipe de France, tout le monde aime,
le contexte est pas favorable.
On est l'équipe que tout le monde aime détester.
Attends, parce que il faut qu'on fasse une pause et après on complète le. Ouais, mais de toute façon on a encore une heure et demie devant nous, hein, donc tout va bien se passer. Je pense que juste sur le contexte, il y a encore plein de trucs à dire. Daniel, on le fait dans une seconde. À tout de suite.
Ok, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
Avec Kevin Diaz, Daniel Riolo et nos invités pour le spécial Naïsna, François Manardo, ancien chef de presse des Bleus, et Stéphane Kanga, producteur du documentaire Netflix. Alors, vous inquiétez pas, il y aura tout en détail. Hein. La grève, la une de l'équipe, Franck Ribéry à Téléfoot, on va parler de tout ça bien sûr, la suite et tout. Mais là, on est vraiment dans le contexte global et certaines petites choses qui, selon nous, selon Daniel, n'apparaissent peut-être pas suffisamment. Oui. On a parlé donc des difficultés sportive à ce moment-là. Il y a un truc aussi, Daniel, c'est les relations entre les joueurs en interne. Je crois que tu voulais revenir dessus aussi, parce que c'est un peu pas survolé, mais bon, peut-être pas aussi précis que tu l'entends.
Bah parce que surtout. Des gens en ont parlé. Il y a des, parce qu'il se trouve qu'après 2010, beaucoup de gens ont écrit des livres. Des gens qui étaient à l'intérieur. François, comment s'appelait le c'est pas un médecin qui a écrit un livre, c'est
non,
ça.
Non, mais il n'était pas avec nous. C'est Jean-Pierre Paclet, qui est sacrifié, ami de longue date, hein, de Raymond, qui est sacrifié après l'Euro 2008 suite à ce que Patrick Vieira voulait faire parce qu'il est blessé et que. Le seul remède, c'était un remède qui est interdit.
L'acto-végin,
merci de le rappeler.
Ah oui, le fameux sang de jument.
Mais Jean-Pierre n'est pas avec nous. Il y a deux livres de personnes qui sont à l'intérieur. Okay. Raymond, le premier, et le second, c'est le mien.
Et pour cet épisode, tu voulais parler des relations entre Gourcuff et les autres,
alors, parce qu'il faut se rappeler que Ribéry n'arrive pas au top de sa forme, dans la tête en tout cas. Certes, c'est un attaquant qui brille au Bayern, mais je pense que vous vous souvenez qu'il y avait eu un Bayern-Lyon quelques mois avant en Ligue des Champions, où le Bayern gagne, et Ribéry, qu'on dit un peu fragilisé mentalement, prend un carton rouge un peu balourd quand même, avec une faute pied décollé, machin, où on dit il va pas bien à ce moment-là, il est très perturbé par cette affaire. Là,
je confirme.
Sont forcément dans sa vie intime, ça va moins bien vu les révélations de cette affaire-là. Et effectivement, dans le groupe France, il y a des gens qui avec qui ne s'entend pas forcément. En fait, et je crois que c'était la vérité, et on le voit à travers le doc, il y avait un groupe. Probablement de 5-6 leaders, et à côté il y a le reste, parce que c'est un groupe de 23. Et moi je me suis entretenu aujourd'hui avec certains qui disent nous on était là, on était un petit peu spectateurs de tout ce cirque, et pour nous assister à cet énorme bordel, mais c'était surtout une déchirure profonde, parce que nous, c'était notre rêve de jouer une Coupe du Monde, et tout a volé en éclats. Et certes, il y avait un sélectionneur qui maîtrisait plus rien depuis pas mal de mois maintenant, qui s'entendait pas avec certains joueurs, ou en tout cas dont l'autorité avait été fragilisée. Certains joueurs qui étaient évidemment plus en avant, cadres, Evra, Ribéry, ces joueurs-là, Galas, Thierry Henry qui devait pas venir et qui est venu, et qui avait donc été finalement un peu... Je sais pas, François, si on peut dire qu'il était mis à l'écart, mais il avait plus l'importance qu'il aurait dû avoir, vu le statut, le nom et le passé qu'il avait. Et donc, il est, voilà. Et donc, il y en a quand même, je dirais quasi 15, je lui dis le chiffre comme ça, mais une grande majorité, qui étaient en fait des spectateurs et qui ont eu leurs rêves brisés. Et donc, oui, il y avait des histoires, des espèces de clans et surtout des gens qui ont rien dit, qui ont fermé leur gueule, qui n'ont été que des suiveurs.
Alors, on peut rajouter à ça William Gallas aussi, qui donc, lui, est déçu de pas avoir le brassard. Ça, c'est très bien raconté, dans le doc, avec cette phrase de Raymond Domenech, qui donc, on comprend bien d'ailleurs qu'il n'explique pas son choix à William Gallas, en lui disant à un moment, toi, j'ai pas de parler. Et il dit donc dans le doc, William Gallas, capitaine. Non, mais si lui, il est capitaine, moi, je peux être général de l'armée.
Non, mais c'est là où il est unique. Il y a qu'une matrice, Raymond Domenech, c'est qu'il le nomme capitaine à l'occasion d'un forfait de Thierry Henry. Parce que dans la phase de qualification, c'est Patrick Vieira qui était censé être capitaine, sauf que Pat, je crois qu'il vient deux fois. Et puis après, c'est à la fin de la carrière, il est blessure sur blessure. Et donc, c'est Thierry qui est le capitaine. Le vice-capitaine, devinez, c'est William.
C'est William, voilà.
William, il est capitaine à Torshavn, au Féroé. Et il n'a pas décidé seul de se mettre le brassard autour du bras. C'est Raymond qui le lui donne. Donc, la logique commande que ce soit William qui soit capitaine. Et c'est ce qu'on voit très bien dans le documentaire. Quand il dit c'est moi. Parce que il l'a déjà été dans la phase de qualif.
Sauf que Domenech choisit Patrice Evra.
Non, mais de toute façon, et on va en parler toute la soirée, mais à partir du moment où, pour ceux qui ne suivent pas le foot de très haut niveau, ça peut arriver à tous les niveaux, ça peut arriver dans les entreprises, dans n'importe quel milieu du monde du travail, à partir du moment où le commandement est aussi désordonné, est aussi désorienté, que ce soit le président de la fédération et surtout le sélectionneur de l'équipe de France, mais c'est juste impossible.
C'est tout le propos justement du film, c'est que nous aujourd'hui, on voulait vraiment donner une vision sur cette faillite de leadership qui a eu tout au long de Nice Nas,
de l'aventure.
Voilà, c'était de pouvoir remettre ça en contexte. L'idée, c'était pas forcément d'avoir tous les protagonistes qui viennent nous raconter ce qu'ils ont vécu de l'intérieur. Nous, c'était de pouvoir remettre en exergue toutes ces différentes petites étapes sur lesquelles il y a eu de la faillite.
Alors j'en ai plein, illustrations de la faillite. Première illustration, on est après le premier match, donc le premier match se passe pas bien du tout contre l'Uruguay, le match du Mexique arrive et tout le monde va voir Patrice Evra et il dit d'ailleurs je suis obligé de faire la nounou parce qu'on n'a pas de coach à ce moment-là. Tout le monde se plaint des séances et Evra essaye d'en parler au coach, on écoute.
Pas de parler avec le coach. On fait que de la merde, dis-lui de changer ses entraînements. Et là, je vais voir Raymond. Coach, je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je sacrifie l'agneau. Je vais lui mettre la guillotine. Gourcuff ne joue pas demain. Je dis, mais coach, qu'est-ce que vous me racontez? Non, je m'en fous, je veux rien entendre. J'ai pris ma décision, Gourcuff joue pas demain.
Voilà. Incapable
ça, c'est
de
quand même une façon de prendre des décisions. Mais Stéphane, une question, s'il te plaît. Il y a un élément moteur, et ça, vous le faites vraiment sentir, qui, à mon sens, est la clé du personnage, c'est le mépris qu'il a pour les joueurs. On dit toujours qu'un entraîneur doit aimer ses joueurs, qu'une relation doit se nouer. Or, lui, à travers ce qu'on lit dans le journal intime, à travers la façon qu'il avait parlé, de parler de certains joueurs. Mais même, j'ai envie de dire, le mépris qu'il avait également pour les médias, le mépris, ça l'habite d'une force incroyable, mine de rien.
Alors,
il méprise les gens et il méprise les joueurs. C'est horrible de mépriser les joueurs comme il le fait.
Nous, en fait, c'est surtout une forme de sincérité qu'on a voulu montrer.
Il a le droit de mépriser sincèrement.
Raymond Domenech, à sa manière, à sa manière de s'exprimer. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est leur donner un strapontin, aussi bien Raymond que Evra, que Duverne, tous les autres. Et
ils se sont exprimés. Tu le sens comment? Toi, tu fais le doc, t'es là, tu le sens ce mépris qu'il a pour les joueurs, la façon dont il en parle, la sélection avec les signes astrologiques, les mots qu'il a dans son journal intime pour certains d'entre eux. En fait, il les méprise intellectuellement, en fait. C'est ça le.
Il dit quand même que, avant de te laisser répondre, ouais, il dit quand même que lorsqu'il a vu la lettre, il s'est étonné qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe.
Si mais oui, mais bien sûr, Kevin, t'as raison de noter ça.
C'est bon, propos. Je pense que, en fait, moi, je ne peux pas vraiment m'exprimer sur ce que je ressens dessus parce que je trouve que c'est à tous les téléspectateurs et ceux qui vont visionner ça de se faire l'analyse.
Bon,
c'est
bah alors, ADN. Ok, bah alors nous, on le ressent comme ça en tout cas.
C'est notre ADN, c'est la manière de faire les choses.
Alors moi je le ressens de l'intérieur parce que, et on en a parlé avec, j'en ai parlé hier avec un membre du staff de l'équipe de France qui était avec moi. On n'est plus très nombreux encore aujourd'hui, mais on était ensemble et on est tombé de l'armoire. Parce qu'on découvre le contenu du journal intime. Alors nous, on a vécu dans notre chair ce drame, ce scandale, pardon.
Oui.
Et quand on voit ce mépris, effectivement, il n'y a pas d'autre terme, on se dit, mais tout ce qu'on... Le travail, l'énergie qu'on a mis dans le fait de soutenir Raymond, de l'accompagner Raymond. Il y a beaucoup de médias, surtout moi, qui savent que j'étais en première ligne pour le défendre. Et quand moi je découvre ces échanges, ce qu'il a livré de son journal intime, je me dis mais oui, je m'étais fait à l'idée qu'il était misanthrope, mais à ce degré-là, et se dire mais en fait pourquoi on y est allé à la Coupe du Monde ?
Non, mais pour moi c'est la clé du personnage, elle est là.
Ce manager, mais on n'avait aucun espoir.
Excuse-moi François, mais là tu parles du journal intime qui a été écrit en 2010.
Oui, non, attends, il a été écrit avant 2010, des extraits. Oui. Moi j'aimerais bien savoir ce qui a pu être écrit en 2006 quand Zidane il met un coup de boule à Materazzi. Ça doit être, il n'a pas utilisé le terme.
En tout cas, bon, disons qu'il a été écrit il y a 15 ans. Il y a plus de 15 ans.
Oui, c'est ça.
Mais dans le doc, il n'y a pas que le journal intime. Il y a ce qu'il dit sur le canapé ou je ne sais pas où il est.
Il
dit aussi. L'histoire de l'orthographe. C'est après 15 ans de recul.
Ça me fait marrer.
Alors, moi j'ai une question avec ce que j'entends. Stéphane, il y a combien de pages de
394.
Que sur 2010 ou il y en avait aussi que j'avais pas exploité sur 2006.
Nous, on a quasiment rien à exploiter. Nous, il nous a remis tout. Nous, on s'est concentré à partir de 2006 sur son journal, mais il y avait plein de choses, un peu. En tout cas, jusqu'à 2010. On s'est concentré là-dessus. Oui.
Et ça, vous pouvez les sortir, donc.
On pouvait les sortir, mais nous, en tout cas,
vous avez pas voulu.
L'accord qu'on avait avec lui, c'est
donc la question que se pose François, est-ce qu'il y avait un truc sur Zidane en 2006
moi, j'ai la réponse.
Mais il doit y avoir forcément. Mais
moi, j'ai la réponse.
De nous dire.
Non. Nous, on est respectueux de la confiance que les contributeurs nous font, malgré ce qu'on peut croire.
Nous aussi, on est respectueux, mais c'était trop tentant de demander.
Je suis désolé.
Je vais faire un saut dans le temps, dans une seconde, mais bien sûr, on pourra revenir sur les trucs en détail, mais dans une seconde on va revenir sur la façon dont Domenech, puisqu'on est sur lui, profite de la situation pour charger les joueurs à fond après les événements, après la grève, un peu pour s'en sortir. C'est dans une seconde, c'est la suite de l'After, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.
Jean-Louis Tour.
L'After spécial Naïsna continue avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz et avec nos invités Stéphane Kanga, le producteur du documentaire Netflix, et François Manardeau, l'ancien chef de presse. Alors on est dans un grand dossier Raymond Domenech, parce que bien sûr il est le personnage central avec Patrice Evra de ce documentaire. Et donc la modification donc du récit auquel tu tiens, Stéphane, par rapport à 2010, c'est notamment le fait que Raymond Domenech, une fois que c'est le chaos décrit, ne fait rien pour sauver la situation. Il y a le fameux épisode où Nicolas Nelka est prêt à présenter ses excuses. Après donc, je vous refais pas tout en détail, vous connaissez tous l'histoire, hein, les auditeurs de l'After, la mi-temps de France-Mexique, les insultes. Derrière, ça part. Et donc, Jean-Pierre Esquelette décide de renvoyer Nicolas Nelka en France. Mais Nelka est prêt à s'excuser. Et donc, Patrice Evra cherche Raymond Domenech pour qu'il lui présente ses excuses. Et Domenech se cache pour, à l'arrivée, dire mais c'est trop tard.
Une preuve de plus du mépris.
Voilà. Et autre preuve du mépris, Daniel, c'est quelques jours après, la conférence de presse veille du dernier match contre l'Afrique du Sud, où donc doivent se présenter, François, je parle sous ton contrôle, le sélectionneur et le capitaine. Oui. Et Domenech sème Patrice Evra, l'empêche d'aller à la conférence de presse.
Là, il y a un passage qui a été coupé.
On peut écouter important. Celui qui a été diffusé déjà.
Passe-moi le coach.
Tu l'as fait ta connerie. Hein, t'as été le leader, t'as été celui qui a imaginé ce truc-là, mais bravo. Maintenant, tu crois que je vais accepter de m'asseoir à côté de toi pour que tu t'excuses. Peut-être même que tu dises que c'était de ma faute, si tu veux. Hein. J'ai dit, écoute, t'as dit assez de conneries comme ça. Reste tranquille.
Ah, il a pas exactement dit ça.
Je veux m'excuser devant toute la France et on me coupe le droit à la parole.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est après la grève. Evra veut s'excuser de la grève et Domenech l'empêche de s'exprimer en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il y a, François? C'est pas ça?
Ah oui, non, pardon, moi je pensais qu'on allait avoir un autre audio. Ouais. Non.
Moi aussi, je pensais qu'elle allait avoir un autre audio. Jean-Louis, là, tu nous as mis.
Il le censure et. Bon, la mémoire de Raymond, elle est ce qu'elle est. Il n'y a que deux témoins de cette scène. Il y a Raymond et moi. Le chauffeur, il ne comprend pas un traître mot de français. Moi, alors je l'écris dans mon livre il y a 12 ans. Il ne dit pas exactement ça. C'est pas cette teneur-là. Les propos qu'il tient au téléphone à Patrice Evra après avoir refusé de le prendre. Oui. Et ça, bon, moi, le seul bémol du documentaire, c'est qu'il n'y a qu'un seul épisode. C'est qu'il lui dit, une fois de plus, je vais encore vous protéger, parce que c'était aussi son discours de dire aux joueurs, c'est moi qui prends les coups avec les médias, comme ça, moi, je vous protège. Mais bon, il aimait bien les prendre, les coups, hein. Il y a parfois un côté un peu maso chez lui. Mais il lui dit pas, qu'est-ce qu'on entend dans l'audio, Stéphane, tu vas pas t'asseoir à côté de moi. Oui. Non, ça, il ne le dit jamais. Et ça, il le dit jamais.
Il romance un peu le truc, là.
Ah, mais c'est un mytho. En fait, il ment énormément.
Il dit non, mais c'était pas la peine que tu viennes. Vous avez fait assez de conneries comme ça, effectivement. Je vais encore
avec,
une fois.
Joue avec la réalité. C'est vraiment
vous protéger. Je vais me sacrifier. Moi, quand j'entends ça, là, c'est le moment pour moi où le masque tombe. Voilà.
Mais le summum du mensonge, le paradoxe absolu du mensonge, c'est que finalement la une de l'équipe dont on va parler dans un instant, ça ne dérange pas ce mensonge.
Non.
Ça ne le dérange pas. Et Kevin, je vais revenir sur, t'as très bien fait tout à l'heure de dire une chose est quand t'es au feu et que peut-être tu perds la tête et que tu en viens à dire un truc et tout, mais quand tu le redis 20 ans plus tard, c'est que c'est bien dans ta tête. Eh bien, 20 ans après, quand on lui reparle, là, qu'il est dans le canapé, là, dans le doc Netflix, et qu'on lui reparle de ce fameux mensonge, enfin, de cette une qui n'a jamais existé, que lui et Escalette ont confirmé devant les journalistes
ça,
en disant
c'est complètement
oui, il a vraiment
fou, ça,
dit ça. Eh bien, 15 ans après, il dit, je m'en contrefous, moi, de ça, j'en ai rien à foutre.
Exactement. Il dit,
mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte?
Parce que vous lui dites dans le doc, moi, est-ce que c'est pas le moment de démentir? Ça. Et il dit, oh, franchement, je m'en fous.
Démentir. C'est dingue. Pour moi, ça, c'est un des passages les plus dingues du doc.
Ouais, ce qui est complètement fou, c'est que, à quel moment est-ce qu'il pense à Nicolas Anelka? Quand même. À quel moment est-ce qu'il se dit, OK, on n'était pas d'accord, on a eu un désaccord? À quel moment est-ce qu'il pense que à jamais, et il y a encore des Français aujourd'hui?
Je vais essayer de recontextualiser un peu. Nous, quand on a commencé à échanger avec Raymond Domenech sur pourquoi il devrait participer, lui, il avait vraiment envie d'avoir une confrontation avec tous les autres joueurs. Parce que pour lui, depuis, il n'y avait jamais eu d'échange franc, direct, sincère avec eux. Et lui, il avait sa vérité. Et je pense que c'est sa vérité qu'on retranscrit dans le documentaire. Pour lui, il avait, je ne vais pas me mettre à parler pour lui parce que c'est pas mon rôle et je ne suis pas la personne la plus indiquée pour ça. Mais je pense que tout ce qu'il a été amené à dire dans le documentaire, c'est les choses que lui, il ressent vraiment. Je trouve qu'il n'est pas dans une...
Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Hein.
Ouais, je pense qu'il n'est pas dans une... Peut-être François ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il n'est pas forcément dans une forme de manipulation. Je pense que sincèrement, pour lui, c'est un non-sujet.
Il ne fait que ça, manipuler.
Pour moi, c'est un non, pour lui, c'est un non-sujet.
Je ne suis pas sûr, Daniel. Je suis pas sûr que ce soit de la manipulation. Moi, quand je regarde, je pense qu'il croit vraiment que pour lui, c'est même pas important de démentir.
Tiens,
à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut
expliquer c'est une qui a marqué les Français, ouais, qui a fait que Anelka était un sale mec. Le mec encore aujourd'hui, il ne veut pas démentir ça. Déjà à l'époque, le fait même qu'il entretient.
Non, il a dit qu'il avait pas.
Il entraîne Escalette avec lui.
8 ans plus tard.
Non, il a dit quand même. Non mais dans le doc, il dit que Anelka n'a pas dit ce qu'a dit.
Oui,
ce qu'a,
non,
ce qu'a
oui. Ah bah dans le doc, 16 ans après, oui.
Dans le doc, après, mais il avait dit dans son livre après. Aussi un peu avant.
Non mais pourquoi? Par contre, juste pour finir, il dit que Anelka n'a pas dit ces gros mots-là qui sont quand même incroyablement incroyablement insultants. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est que il ne voit pas l'intérêt, même 15 ans après, où il aurait rien changé au fait de ne pas le démentir à ce moment-là. Et c'est là où je suis plus d'accord avec lui. Je ne le comprends plus du tout.
De toute façon,
Kevin, je vais pas être d'accord avec lui.
Mais je veux dire que je peux entendre que lui trouve que c'est pas important, mais il le trouve pour lui-même, mais pour le joueur, pour son équipe,
c'était ultra important de démentir. Tu n'as pas à mentir et à confirmer une fausse information, pardon, mais tu n'as pas à faire ça.
De toute façon, on y revient dans une seconde sur les insultes, ce moment avec Nicolas Anelka, parce qu'il y a encore plein de choses à dire et à analyser. Et il y aura la question pour Stéphane.
C'est encore la pub là, mais...
Bah oui, oui, j'y peux rien moi. Allez, à tout de suite.
T'as augmenté ton salaire, Jean-Louis, je peux comprendre.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. RMC.
Et justement pour ça, je présente vraiment toutes mes excuses à tous les Marseillais.
J'ai eu la réaction qu'une personne ne peut pas avoir et je suis prêt à m'excuser devant le journaliste.
Le PSG ne s'excuse pas, monsieur. Le PSG ne s'excuse pas, il n'a pas besoin de s'excuser.
Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse.
C'est une grosse connerie. Je suis là pour m'excuser.
Je dois juste dire à notre supporter, excuse.
RMC, l'After Foot.
Jean-Louis Tour.
L'After jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo, spécial Naïsna, ça reprend dans quelques secondes. Juste avant, j'ai deux choses à vous rappeler. Déjà que Didier Deschamps a communiqué sa liste pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas que des heures sombres dans le foot français. On espère que ça se passe bien aux États-Unis. Vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr et notamment les réactions des joueurs qu'on a eu en direct tout à l'heure dans Génération After. Si vous avez raté ça, c'est aussi disponible en podcast. Vous dire également que le Real mène 1-0 face à Oviedo dans un match de Liga et que Kylian Mbappé vient d'entrer sous une énorme bronca du Santiago Bernabéu. Donc pour cette rencontre, pour ces retrouvailles avec le public, on en reparlera bien sûr sur RMC. Ouais, Kevin.
Tu as juste oublié de dire un truc, c'est que demain il y a quand même le dernier épisode des quarts de finale de la nouvelle voix de l'After qui sort.
Mais écoute, voilà, c'est fait. En plus, c'est fait.
Épisode à Lens.
À Lens,
avec
voilà.
Avec un très très gros niveau.
Il ne faut surtout pas rater cette magnifique.
C'est excellent. Sur la page YouTube de l'After.
Voilà.
Voilà, très bien. On revient à
toutes les plateformes.
Avec nos invités, Stéphane Kamga et François Manardo, donc réalisateur, producteur plutôt du documentaire, et François Manardo.
Co-producteur, oui.
Co-producteur, l'ancien chef de presse des Bleus. On était sur les insultes de Nicolas Anelka, donc mi-temps de France-Mexique, où tout le monde a.
Là, on est dans le cœur du sujet, hein, Jean-Louis.
Exactement.
Là, c'est vraiment le virage,
et,
il est là.
Hein. Et moi, je trouve qu'il y a une illustration d'ailleurs. Qui en dit un peu plus encore sur la personnalité de Raymond Domenech, c'est quand François, tu as connaissance de la une de l'équipe avec les fameuses insultes
ça,
donc qui sont mises en une, et donc que tu appelles Raymond Domenech donc la veille au soir à ce moment-là, alors que
en pleine nuit, oui.
En pleine nuit, alors que la une va sortir vraiment quelques heures après.
Je décide d'appeler le coach.
J'étais en train de lire, j'arrivais pas à dormir. Il me dit demain il y a un truc qui sort sur l'équipe.
C'est va te faire enculer, sale fils de pute.
Je lui dis, ah bon? Ça sort quand? Demain? C'est sur l'équipe, ça sort à Paris. On est où, l'eau? Bah écoute, on verra demain matin. Et je crois que là, je me suis endormi.
Non mais, il me dit pas exactement ça non plus.
Ah bon, bah, il
t'a rien demandé. Mais non, mais c'est emmerdant, mais moi je le connais tellement.
C'est la même idée quand même ou pas? Qu'est-ce qu'il te dit?
Il me dit, alors d'abord, il me le dit pas clairement, mais je comprends qu'il est au courant. Parce que je pense que y a pas que les joueurs qui avaient des bons contacts avec des journalistes, lui aussi. Donc il a été mis au courant de cette une par un journaliste avec lequel il a des atomes crochus depuis 40 ans.
Ouais, Vincent Duluc donc.
Vincent
dont
Duluc.
Il faudra parler dans un instant. Et... parce que c'est bien beau de se plaindre du doc comme il l'a fait.
Ouais,
on aurait aimé plutôt aimé qu'ils disent on a fait une une de merde en 2010 et on assume et on s'excuse. Or ils ne l'ont jamais fait ni lui ni les patrons de l'équipe de l'époque et je trouve que c'est absolument lamentable. Mais bon, rien.
Alors, il s'explique dans
journal.
Le doc. Hein. Vincent Duluc, François Morinière, le patron, Sébastien Tarrago également.
Ils sont assez épargnés, moi, je trouve. Hein. C'est une critique
ils sont
que
carrément
je fais,
épargnés.
À la prod, mais bon, après, il y a 1h20, il faut faire un montage.
C'est incroyable, cette une.
Mais je trouve que l'équipe s'en sort pas mal.
Alors
par rapport au traitement journalistique de la une. Hein.
Sachez qu'on a posé toutes les questions. On a posé les questions par rapport à la une. Ils n'ont pas souhaité répondre.
Ah ben, c'est pire encore.
Alors, ah moi, non, mais moi, je reproche rien du tout au doc là-dessus. Mais eux... franchement, venir se vanter d'avoir fait une comme ça, alors que c'est faux, et encore aujourd'hui, ne rien dire, et venir juste sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour dire, si vous avez 1h20 à perdre, faites autre chose que de regarder le doc.
Ça, c'est
le sans déconner.
Alors,
sans déconner, c'est lamentable. C'est franchement lamentable de dire ça.
Tous les gens de l'équipe sont les bienvenus sur RMC pour s'expliquer si leur parole a été dévoyée dans ce doc. Ils ont la parole sur RMC.
Ils ont toujours été les bienvenus pour venir où ils veulent. Ils peuvent venir où ils veulent. C'est sans problème. Le plateau de l'after est ouvert.
Et le deuxième truc aussi qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu quand même une décision de justice sur cette une, puisque Nicolas Anelka a poursuivi l'équipe en diffamation et qu'il y a eu relax décidé par le tribunal de Paris en disant que la conclusion, c'était que même si le débat existait sur les mots exacts prononcés, donc c'est pas exactement ces mots-là qui sont en une, l'injure n'est pas contestée. Donc c'est pas aux joueurs de juger le traitement journalistique des propos de vestiaire.
C'est quand même incroyable ce jugement. Le gars, on l'a fait passer pour quelqu'un qui insulte des pires insultes de son entraîneur, qui depuis et à jamais dans l'histoire du football et dans son histoire personnelle sera assimilé à des mots qu'il n'a pas tenus, en tout cas selon les protagonistes, et t'as un tribunal qui te dit non mais monsieur, bon c'est peut-être pas ce que vous avez dit mais ça va le faire quand même. Non. La question que je veux poser depuis tout à l'heure,
mais moi je voudrais revenir sur ce que tu dis parce que c'est très important et c'est super sensible là, ce sujet, Kevin.
D'accord,
donc chacun prend des tickets. Attends, Kevin avait pris son ticket en premier dans la file. Donc vas-y.
Ma question. Alors déjà, je suis pas du tout d'accord avec le journaliste de l'équipe qui a fait ce tweet cet après-midi. Moi, je pense qu'il faut absolument voir le doc. Ma question, c'est déjà, est-ce que vous leur avez demandé pourquoi vous vous êtes pas excusé, ou pourquoi vous n'avez pas fait un démenti, ou pourquoi vous avez publié quelque chose qui n'est pas vrai
là-dessus, moi je peux répondre avec un grand confort, c'est que je pense de tous les échanges que j'ai eus, aussi bien avec Vincent Deluc, Tarago et bien d'autres qui n'ont pas souhaité s'exprimer, pourtant qui étaient au corps de l'écriture de cette une de l'équipe, c'est que ils sont pas d'accord entre eux. Ils sont pas d'accord entre eux sur est-ce qu'il fallait la mettre ou pas. Mm-hmm. Ça, ils nous l'ont clairement dit.
Ok, ça je peux le comprendre.
Le débat, c'est si tu sais qu'il a dit ça, tu peux faire débat, on le met ou on le met pas. Mais si tu sais que ça n'a pas été dit, le débat, il n'existe pas en fait. Donc le d'accord ou pas d'accord entre eux, on n'a rien en vrai.
C'est juste qu'à un moment,
eux, ils ont inventé une, et Morinière le dit, il est tout content d'avoir inventé cette une, et que derrière, Domenech, ami de 30 ans de Vincent Deluc, est venu devant les journalistes pour confirmer, et Escalette a confirmé les mots. L'énorme mensonge, il est là. Escalette, moi, à la place d'Anelka, je suis comme un dingue, moi, avec cette histoire-là.
Totalement.
Non, mais ça, c'est sûr.
Ah ouais.
Une chose dans le fait que Nicolas a été débouté de sa plainte pour diffamation, c'est que l'information de l'insulte, le traitement qu'il y a dans le journal, et moi c'est mon problème à l'époque, c'est pas la une, à la limite, je m'en fous, mais c'est qu'il y a eu une altercation. Je le sais la veille, et c'est confirmé. L'info est vraie. Mais après on est sur des éléments, alors là, il y a des journalistes, enfin toi et Daniel, vous êtes journalistes, mais c'est le traitement journalistique de la une qui pose un problème. Et le juge, dans son ordonnance, dit, et il y a une jurisprudence en LK depuis, qu'on peut exagérer, mais ça n'enlève pas le fait que l'insulte et la plainte pour diffamation...
Il y a quand même une différence entre fais là ton équipe de merde et va te faire enculer, sale fils de pute quand même. C'est pas une exagération,
Daniel, elle est inaudible dans un sujet aussi médiatisé que l'équipe de France. Ça, c'est inaudible.
Oui, d'accord, mais ça peut être inaudible. Après,
là, on parle pas d'exagération. Excuse-moi.
Je suis désolé, mais je suis pas juge et je suis certain qu'il y avait des appuis au niveau de la loi, etc. Législatif, il y a aucun problème. Mais il y a un moment quand même, il y a des humains derrière. Et donc le gars, il y a encore des Français aujourd'hui, mais ça se compte en millions, les gens qui croient qu'il a vraiment dit le truc, c'est ça qui est complètement fou. Au moins, je pense, 20 à 30 millions de Français aujourd'hui qui croient qu'il a vraiment dit ça, parce que c'était dans le journal, ce qui a choqué Domenech, c'est qu'il l'ait tutoyé.
C'est une des vérités qu'on essaie de rétablir, parce que 16 ans après, il y a encore beaucoup de gens qui en veulent à Nicolas Anelka pour des propos qu'il n'a absolument pas tenus. Et nous, on a trouvé ça très important de pouvoir rétablir cela. Parce que, alors, il faut savoir que nous, on a mené plus de 116 heures d'interview. On a eu à interviewer plus de 30 différents protagonistes. Il y en a plein, même qui nous ont appelés après pour nous dire que finalement, ils ne voulaient plus participer. Et on l'a respecté. Et on ne les a pas mis à l'antenne, malgré d'autres qui disent le contraire. Et de tous les gens, mais alors tous les footeux, off, pas off, ils sont catégoriques là-dessus. C'est une injustice que Nico a subie. Même Raymond nous le dit.
Ça, oui.
Moi, quand j'ai échangé avec Raymond avant son passage, c'était l'une des choses qu'il voulait. Lui venait pour réhabiliter Nicolas aussi. Ouais. C'était l'un de ses objectifs de dire qu'il avait vécu une injustice, que c'était trop dur et que aujourd'hui.
Il a fait une belle jambe alors qu'il l'a mis dans la merde avant.
Et d'ailleurs, sur Nicolas Anelka, qui n'est donc pas dans le doc, hein, non, parce qu'il considère qu'il avait déjà fait le sien, c'est ça?
Oui, c'est ça. On a parlé de Nicolas Anelka, on s'est vu à 2-3 reprises, on a beaucoup parlé avec son entourage et il avait souhaité effectivement ne pas participer. Parce qu'il estimait qu'il avait déjà dit les choses, mais qu'il espérait qu'on allait pouvoir quand même retranscrire la vérité.
Alors je vous recommande, si vous êtes fan de l'histoire Naïsna, sur le compte Twitter de Rotten sans flamme, on a ressorti l'émission qui avait été faite avec Patrice Evra, avec Nicolas Anelka, où déjà Nico racontait que c'était pas les propos qui étaient tenus à ce moment-là. Et Patrice Evra,
il y a aussi son documentaire que vous pouvez retrouver sur.
Et donc du coup leur version de ne jamais s'être excusé, c'est quoi alors?
Pour l'équipe.
Ah, mais parce que pour eux, ils maintiennent Mordicus pour certains que c'est les propos.
Donc tous les gens qui est Evra à côté, Anelka, Domenech, tout le monde dit c'est pas ça, mais eux pour
il y
eux,
en a certains pour qui ils estiment qu'ils ont bien fait leur travail journalistique, les investigations, que tout ce qu'ils ont recoupé. Et attention, nous on reconnaît que ce qui est à l'intérieur du journal est un travail journalistique de premier plan. Ils ont très bien fait leur travail.
On parle de la une,
de la une effectivement. Je pense qu'ils sont à minima. Certains reconnaissent qu'effectivement c'était un peu du sensationnel.
La une, c'est à Paris qu'elle est décidée, la une. Et oui. On voit François Morinière, mais il y a Fabrice Jouot qui décide,
directeur de
la une, et qui a, alors il s'est tâté, je le sais, je le connais depuis longtemps, hein. Moi, j'étais journaliste dans le groupe L'Équipe il y a 26 ans. Ouais. Fabrice en était le rédacteur en chef de la rubrique foot, et puis il est directeur de l'équipe au moment du scandale en 2010. Il décide de faire cette une en pensant que, c'est les propos qui ont été, prononcé par Nicolas Anelka. Alors, c'est une erreur. Il fait une erreur monumentale. J'aurais bien aimé le voir dans le domaine.
François, quand même, il se dit quand même, c'est des grands journalistes. Je connais pas cette personne, mais ça doit être des grands journalistes, des grandes carrières, etc. Pour être à ce poste-là, il se dit pas. Mais si c'est pas vrai, il se passe quoi en fait? Si c'est pas vrai?
Ça va très vite parce qu'il n'y a pas que l'équipe qui a l'info. Donc c'est la course à l'échalote, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence effrénée à ce moment-là qui va durer 24 heures entre certains médias, dont RMC d'ailleurs. Il y a Marc Benoît qui a l'info.
Marc Benoît qui a plusieurs sons de cloche dans le vestiaire. C'est pour ça que RMC ne sort pas d'info à ce moment-là parce que c'est ce qui est ressorti, c'est que dans le vestiaire, entendre des choses
RMC,
différentes.
RMC, InfoSport, ont l'info, mais ils vont mettre plus de temps pour la vérifier, c'est l'équipe qui va dégainer en premier.
J'ai envie de rectifier, ce qui dégaine l'information en premier, c'est le Canal Football Club la veille par Raphaël Domenech. C'est lui qui en parle le premier, sans parler de cette fameuse.
Mais c'était pas un scoop.
C'était pas. Je pense que Raphaël serait pas d'accord avec toi.
Oui, forcément, il serait pas d'accord avec moi. Mais bon.
Non, mais il parle pas des insultes en fait.
Il raconte assez bien ce qui se passe dans les vestiaires, sans pour autant dire que ce sont les propos.
Moi, François, j'ai une question pour toi directement. En tant que chef de presse, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, mon rôle, c'est d'organiser un démenti? Si ce qu'il y a dans l'équipe, ce n'est pas ce qui a été prononcé dans le vestiaire, est-ce que c'est pas à moi de faire le lien entre la presse et les joueurs à ce moment-là? Est-ce que c'est pas à moi d'aller convaincre tout le monde?
Non.
Pourquoi?
Pour une bonne et simple raison, c'est que faire un démenti sur la une en disant il y a eu une insulte. Alors l'insulte, on va pas discuter ici de. En plus, il y a des gens qui nous écoutent.
Ces propos n'ont pas été tenus dans le vestiaire de l'équipe de France.
Moi, mon problème et le problème de n'importe qui bosse dans un groupe comme ça, l'info est vraie. Il y a eu une altercation. Que ce soit fils de pute, enculé, ton équipe de merde, le problème il est là. Donc il y a une sanction à prendre contre le joueur. Si tu dis seulement la une est fausse. Mais en revanche, oui, il y a eu une altercation. On est en une Coupe du Monde. On est une des équipes les plus médiatisées.
Mais
avec
quelle altercation? Est-ce qu'il y a eu plus que Fela tout seul, ton équipe de merde? Non. Est-ce qu'il y a eu plus que ça?
De tout ce qui a été regroupé pendant notre investigation, non. Il n'y a pas eu plus que ça.
Alors, attendez, excusez-moi, là, ça fait 5 minutes que je vous entends.
Nicolas Anelka n'a jamais démenti qu'il a.
Il n'y a pas de tenue. Excusez-moi. Pardon, Stéphane.
Oui.
Stéphane, toi qui as entendu, qui a parlé à tous les mecs. Et François, toi qui étais là. Et moi, et à ceux que j'ai demandé, la même chose. On est en train de parler depuis 5 minutes. Il y a eu une engueulade dans le vestiaire avec un type qui dit qu'est-ce que tu fous, t'es mal placé sur le terrain et tout, machin. Fais-la tout seul ton équipe de merde. Ce qui ressort le lendemain, c'est va te faire enculer, c'est le fils de pute. Là, on n'est plus dans l'exagération, on est dans l'invention. Donc, quand on me parle d'altercation, quand on dit c'était chaud, c'était ceci, que ça se termine au tribunal, mais est-ce qu'il y a eu plus que cette phrase, fais-la tout seul ton équipe de merde? S'il n'y a pas eu plus que ça, on est en train de parler dans le vide et pour rien. Mais on est en train juste de parler d'une invention, d'un mensonge vendu.
Ça exactement. Il dit je me souviens de ça.
Donc le seul sujet, c'est celui d'une invention, d'une manipulation, d'un journal, d'un quotidien français manipulé et complice du sélectionneur de l'équipe de France et du président de la fédération de l'époque qui ont confirmé ses propos. Voilà.
Il y a quand même des sources qui l'ont balancé à Damien Degore et Raphaël Raymond, qui sont les deux limiers de l'équipe qui sortent.
Ce sont donc des gens qui ont menti. Ce sont des gens qui ont inventé. Ou alors peut-être que les gens de l'équipe ont juste inventé. Peut-être qu'ils l'ont inventé parce qu'ils ont trouvé ça bien.
Daniel, juste moi, si je me place, alors je n'ai jamais.
Qui viennent nous l'expliquer toutes ces années après.
Ça, moi, je peux pas croire qu'ils aient inventé.
Non,
je peux pas croire qu'ils sont peut-être fait avoir par des sources. Ils sont peut-être manipulés et tout.
Je rappelle quand même qu'il y a un gars derrière, en fait. Il y a un humain derrière. C'est pas genre je l'ai entendu. Je suis désolé, moi. Arrête. Je suis désolé, François.
Moi, je suis d'accord avec Kevin.
Je suis désolé, François. Mais quand tu me dis que l'info, elle est vraie, l'info, elle est fausse, en fait. Elle est fausse. Il y a une altercation.
Mais qu'est-ce qui est vrai, François? Qu'est-ce qui est vrai?
Il y a 2 millions d'altercations dans les vestiaires de foot et en équipe.
Qu'est-ce qui est vrai, François? Qu'est-ce qui est vrai?
Il y a des altercations et j'ai entendu 1000 joueurs dire dans leur barbe, vas-y, tu me saoules avec ton équipe de merde. Mais j'ai jamais entendu un mec dire, va te faire enculer, fils de pute. Je l'ai jamais entendu. Bon. Et donc, ça n'a rien à voir.
Détends-toi.
Mais non, moi, je me place en tant que joueur.
François, qu'est-ce qui est vrai? Moi, je comprends la colère de Kevin. Tu dis, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est vrai?
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une altercation, ce que Nicolas me confirme le lendemain matin.
Mais une altercation, si c'est fait là tout seul ton équipe, il y a une vraie différence avec la une de l'équipe, bon sang.
Je continue.
Non, il y a une insulte quand même.
Nicolas et moi, on se voit un peu par hasard, parce que n'écoutant que leur courage, le staff me demande d'aller voir Nicolas le samedi matin, donc juste après le petit-déj, je pense que je suis la première personne qui débarque dans sa chambre, et Nicolas, je le raconte ça il y a 12 ans, il me dit jamais, mais j'ai jamais insulté le coach.
Et ben alors, tout est là, donc tout est dit, stop.
J'ai pas exactement dit ça, mais je lui ai dit d'aller se faire foutre, lui, son équipe de merde.
Voilà. Mais donc, on est très loin des propos de l'équipe, c'est tout.
Ça, voilà.
on est à des années-lumière de ça.
Une de l'équipe.
Alors, je me permets de m'excuser pour toutes les insultes diffuses, malheureusement. On cite, donc c'est difficile.
En tout cas, tout ça pour dire que moi, si ça m'agace.
Surtout qu'il y a un passé entre un journaliste de l'équipe et Anelka. Un passé,
Daniel, c'est un procès d'intention de faire ce raccourci vis-à-vis du professionnalisme des gens.
Oui, mais je m'inscris en faux aussi là-dessus parce qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup enquêté pour voir s'il y avait un parallèle entre cette altercation entre ce journaliste et Nicolas Anelka.
Si vous le dites, alors y a pas de problème.
Et pour nous, c'est absolument pas au cœur du sujet.
On a enquêté.
Tarago n'est en rien dans la publication de cette.
Il décide pas de la une. Hein,
alors, c'est pas Tarago.
Très bien. Bah alors, ok. Bah je retire.
C'est Fabrice Jouot et François Rignard qui décident de la une.
Nouvelle interruption. J'ai pas le choix.
Encore.
Et on revient très vite. Il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, c'est la journée de la grève et tout l'emballement médiatique qu'il y a eu autour de l'événement.
Toute mon émotion. Quand je me place en tant que joueur, je comprends.
Mais t'as le droit d'avoir ton émotion, Kevin. Il n'y a pas de souci. C'est la peur.
Mais il y a un truc important à pouvoir redire, à recontextualiser par rapport à pourquoi Raymond ne défend pas Nico Anelka. Par rapport à ces mots-là,
c'est un teasing magnifique. À tout de suite pour l'entendre.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et notre spécial Naïsna qui continue avec François Manardo, ancien chef de presse des Bleus et le producteur du doc Netflix, coproducteur, Stéphane Kamga, qui est avec nous sur RMC, donc dans l'after. Alors, on a beaucoup parlé de l'épisode des insultes à la mi-temps de France-Mexique en 2010. Allons sur la suite, donc, et ce qui va amener à cet emballement médiatique complètement fou. Donc, lié à la une de l'équipe. Et le lendemain, il y a donc ce fameux entraînement ouvert au public. Ça d'ailleurs, moi j'avais oublié que tout était fermé et que c'était le seul entraînement ouvert au public.
Non, alors non.
Bah, c'est dans le doc, ça.
Oui, mais c'est Sébastien Tarrago qui a des problèmes de mémoire lui aussi.
Bah, tout le monde a des problèmes de mémoire,
mais
François.
Oui, mais tu sais,
ça pose des problèmes, ça, quand même.
Mais oui, ça. Bon, quelques petits problèmes. C'est-à-dire que tout n'était pas fermé. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que c'est trop long ici. Nous, l'équipe de France, la fédération s'est faite avoir, pour rester poli, par le directeur de l'hôtel où nous logions. Nous avions payé l'exclusivité de l'hôtel, d'avoir l'hôtel réservé que pour l'équipe de France.
Très belle hôtel.
Et on se fait avoir parce que le terrain d'entraînement qui est le nôtre n'est pas censé être celui-là. On doit l'utiliser que pour les huis clos. Il y a des travaux à prévoir parce que c'est un terrain de cricket au départ. Les travaux sont exécutés, mais mal exécutés, et ils ne rencontrent pas les normes de sécurité pour accueillir du public. On ne peut accueillir que les médias. Tous les entraînements sont ouverts, comme pour les 32 sélections en Coupe du Monde, 48 dans quelques jours, c'est-à-dire qu'on laisse un quart d'heure ouvert à la presse. Tous les entraînements, on en fait un ou deux à huis clos. Huis clos, c'est complètement fermé. Pour les gens qui connaissent pas trop bien le jargon logistique, média et football. Et cet entraînement du 20 juin, alors ça c'est vraiment le hasard ou une leçon divine, c'est que on a une dérogation, c'est la deuxième fois seulement qu'on obtient une dérogation pour pouvoir accueillir du public sans que ces normes de sécurité soient respectées. Mmh. Les joueurs ne le savent pas. Ils ont prévu de faire la grève, mais de pas venir sur le site d'entraînement. Quand ils apprennent, et ça c'est dans le documentaire de Nico,
qui est fou.
Anelka, quand ils apprennent qu'il y a du public, ils disent non mais on va pas snober, c'est que la deuxième fois qu'il y a des gens, en plus ce jour-là, on est en plein hiver en Afrique du Sud, à Naïsna, c'est comme si on était en Bretagne. Il y a un grand soleil, ils disent non, on va pas paraître en plus pour des gens qui snoberont les gens de la ville, on vient, on signe les autographes, et puis on se casse. Mais tout était ouvert un quart d'heure à la presse, mais on ne pouvait pas accueillir du public. Ça, et on aurait bien voulu, crois-moi.
C'est bien expliqué ça.
Et alors, ce qui est bien expliqué aussi, c'est qu'à ce moment-là, c'est l'essor aussi des chaînes d'infos en continu et que tout se passe en direct pour tout le monde. Les différentes étapes, les joueurs qui sortent en basket, qui décident de ne pas s'entraîner, Robert Duverne qui s'embrouille, le préparateur physique avec Patrice Evra, les joueurs qui font grève, Jean-Louis Valentin, qui était son poste déjà,
qui démissionne.
Après la montée du faux plat, là, un peu essoufflé au moment d'annoncer sa démission.
Il y a qui ont dit mais c'est vous la taupe, monsieur Valentin.
Exactement, il y a la question
non,
à la fin.
Certainement pas.
Parce qu'à ce moment-là, on est dans le contexte de chercher la taupe. Il y a déjà eu Patrice Evra qui.
Mais t'oublies le téléfoot, on n'en parle pas du téléfoot parce que c'est avant l'entraînement. Pardon, je fais pas ton boulot à ta place. Désolé.
Oh bah si, tiens, allons-y. C'est le matin, le téléfoot.
C'est ça, c'est le matin. C'est parce qu'on est dimanche.
Voilà, Franck Ribéry qui s'invite.
Et revoir la scène, ça fait quelque chose parce qu'on en a énormément. Même en parler évidemment de ce téléfoot qui avait scotché tout le monde avec l'intervention de Ribéry pas prévue, avec David Astorga qui est très bon d'ailleurs, David Astorga, à ce moment-là, la présentation de téléfoot quand Ribéry arrive. Et je vais vous dire, c'est marrant parce que à l'époque, dans le contexte, j'avais trouvé Ribéry.
Je sais pas ce que tu vas dire, mais je suis d'accord.
Mais complètement à la ramasse et tout. Mais en fait, revoir le moment, je vois un homme qui est pas bien, qui est perdu. Mais je le trouve finalement troublant de sincérité.
Oui, mais Daniel, pourquoi vous avez cette vision différente? Parce qu'on s'est mis dans la tête que les joueurs vivaient une injustice parce que les mots mis en une ne sont pas les mots prononcés. Et ça, il nous a fallu des années pour intégrer ça. À l'époque,
attention, on va venir dans un instant sur la grève. Moi, tout ce qui s'est passé et la grève et la façon dont les Bleus n'ont finalement pas senti qu'ils étaient là pour l'équipe de France, ça, moi, je continuerai de leur en vouloir tout le temps.
Oui, non, mais
ça,
d'accord, Daniel.
Ils ne devaient pas le faire. Ça, c'était une amitié.
Ça, tu as raison.
Maintenant, avec le recul, la sincérité de Ribéry à ce moment-là, moi maintenant, quand je le revois là, moi, elle me touche.
Alors qu'à l'époque,
elle nous mettait en colère. À l'époque, elle nous mettait en colère. Il faut dire la vérité.
T'as raison, Daniel.
À l'époque, dans le tourbillon de l'époque, la France entière était en colère. Aujourd'hui,
ils n'ont pas parlé tout de suite après parce qu'ils ont bien vu qu'ils étaient dans un tourbillon où ils devaient quitter le pays parce qu'ils n'étaient pas audibles. Mais il y a quand même quelque chose. C'est que, comme dans toutes les catastrophes, en fait, dans cette catastrophe, c'est une succession d'événements de mauvaise communication qui en fait, il fait les protagonistes à prendre les pires décisions. Mais c'est pas juste les mecs qui se sont réveillés un matin parce que c'est des caïds immatures et qu'ils ont décidé de faire la grève ou de faire des choses qui leur ont... une succession et la grève et Ribéry qui est plein de sincérité, qui est au bord des larmes. Et d'ailleurs, même Patrice Evra te dit qu'après, il a pleuré auprès de ses coéquipiers.
Attends, je voudrais juste, Kevin, puisqu'on est sur Ribéry à Téléfoot, un petit extrait où l'histoire d'amour Domenech, Manardo et Omax.
Merci. Moi, j'étais du côté où je le voyais arriver. Et il discutait avec Manardo. Et Manardo le fait rentrer. Ça, c'est un attaché de presse. Le mec, il y a une bombe atomique qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il vous l'envoie, gentiment.
C'est ça, un attaché de presse ?
C'est bon, ça. Non, mais ça, moi, je l'ai découvert aussi. Ben, comme disait Stéphane, on n'a rien su de ce que les autres avaient dit, avaient pu dire. Moi, je le découvre. Ben, ça m'a fait marrer parce que... Rétrospectivement, s'il avait vraiment s'il avait consulté les astres, il aurait su qu'il y avait une grève dans l'après-midi, je pense. Hein, ça lui aurait permis au moins l'astrologie.
Il s'en doutait en tout cas.
Peut-être. Oui, non, mais là, il aurait carrément su. Ouais. Donc, si on sait qu'il y a la grève dans l'après-midi, effectivement, Franck, tu vas pas lui dire d'aller sur le plateau. Quand il arrive sur le plateau, personne n'est au courant de ce qui va se passer dans l'après-midi, à part les joueurs. Il y a quelques personnes à Paris aussi.
Permets-moi sur ce point, Domenech récemment a participé à une émission où je suis allé quelques semaines plus tard, là, qui s'appelle Offense, sur les réseaux, sur YouTube, et il donne une autre version, c'est-à-dire s'il s'arrange vraiment avec la vérité. Et lui, il raconte à ce moment-là, je l'ai vu tout à l'heure, que le matin, au petit-déj, il avait déjà compris qu'il y aurait quelque chose. Il lâche même le mot de grève. Donc, il dit hop, et puis en fait, finalement, il s'y attendait le matin. Il dit, mais ils vont quand même pas me faire la grève, ces cons-là.
Je sais pas pour Offense, si on n'y était pas sur Offense, mais effectivement, nous, à chaque fois qu'il nous parle, il nous dit depuis que le matin, il sent quelque chose. Il sait pas quoi.
Il sait pas quoi, mais il se dit, ils vont le faire quelque chose.
Il sait pas quoi.
Mais quand Franck arrive,
il dit même qu'il va voir.
Quand Franck arrive, donc Franck, il fait.
Mais Franck, il fallait pas l'empêcher d'y aller à Téléfoot. Mais une com maîtrisée,
attends, je reconstitue quand même les faits. Et que les faits, monsieur Tour, c'est que lorsque Franck débarque, il débarque sur le plateau. Le plateau, il n'est pas accessible quand tu rentres directement dans le club de golf de l'hôtel. C'est-à-dire qu'il arrive dans notre dos. Et il est au téléphone avec Jean-Pierre Bernès. Mmh. Donc moi, on me fait, c'est Sylvain Mignonat, TF1, qui me dit, il y a Franck Ribéry, il est là. Et il est là où ? Ben, il est juste derrière toi. Et si moi, je le sors alors que Franck me dit, quand il raccroche avec Bernès, moi, je vais absolument m'excuser, j'en peux plus, c'est trop dur, ce qu'on a fait, on est nul depuis le départ. Donc moi, je trouve que l'intention est bonne. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'après-midi. Si tu veux aller t'excuser, vas-y. Oui. Je rajoute juste un détail aussi. Par contrat, et moi je suis aussi là pour faire respecter les contrats, on doit 2 joueurs à TF1 pour l'émission de Téléfoot. Par contrat, TF1 n'est pas que sponsor de l'équipe de France, il y a aussi un contrat éditorial. Et moi, j'appelle Noël Le Graët avant l'émission, et j'appelle aussi Jérôme Saporito, et j'ouvre très vite aussi la parenthèse, parce que c'est Jérôme Saporito qui a la paternité de ce documentaire, avant qu'il n'ait pas plus allé au bout et l'ait transmise à nos amis ici présents, avec Stéphane Kamga. Mais j'appelle Jérôme, qui est le directeur éditorial de la prod de TF1, en lui disant, Jérôme, il n'y aura pas de joueurs, on est dans des circonstances exceptionnelles. Et je dis à Noël Le Graët, qui est le trésorier à l'époque de la Fédé, président, c'est pas le président de la Fédé, mais on s'est compris. Lui qui s'occupe des contrats et c'est lui qui
faudra parler en sous-main de Bernès et Deschamps aussi.
Il y aura que le sélectionneur. Donc j'avertis tout le monde. Quand Franck arrive, moi, il m'enlève une énorme épine du pied et je trouve qu'en plus le discours qu'il a envie de tenir, et moi, il est déjà larme aux yeux, Franck, quand il raccroche avec Bernès. J'ai dit, ok, vas-y. Donc Raymond, il a beau jeu de dire ça rétrospectivement. C'est une bombe. Oui, c'est une bombe si tu sais ce qui va se passer dans l'après-midi. Sauf que moi, j'ai pas de boule de cristal.
Alors, avant de basculer sur le communiqué, la fin de la grève, on a Kim qui patiente au 32-16 et qui veut discuter de ce Doc Naïsna avec nous sur RMC dans l'after. Salut Kim.
Salut Jean-Louis, bonjour à tous. Bonsoir à tous.
Il t'a plu ce Doc ?
Ouais, il m'a plu. Désolé, j'ai un peu la voix cassée. Il m'a plu, il m'a fait penser d'abord à un truc, c'est le paradoxe un peu ce matin. C'est que moi, en 2006, j'ai 15 ans, en fait, et je pleure la finale contre l'Italie. Et en fait, aujourd'hui, après avoir eu le doc, je me surprends limite à me dire qu'en fait, une victoire, ça aurait fait valider un fonctionnement toxique. Et en fait, c'est assez violent à admettre, mais je me suis dit qu'en fait, même si j'ai soutenu l'équipe de France toute ma vie, en fait, maintenant, avec le recul, je préfère en fait avoir perdu cette finale en 2006. Donc ça, c'est la première réflexion que je me suis faite après avoir vu le doc. La deuxième, c'est que moi, je vous écoute depuis toujours, et je me rappelle très bien que déjà, à l'époque, à l'after, on sentait que vous étiez parmi les seuls à vraiment raconter ce qui se passait en coulisses, et qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Donc, bravo à vous pour ça, déjà. Et ça m'a rappelé un peu ces belles années qu'on a vécues en 2008, avec toute l'équipe. Et la dernière chose, c'est que Domenech, pour moi, il jouait toujours le rôle du type détestable face aux médias, mais je pensais que c'était pour protéger son groupe. Et en fait, là, on se rend compte qu'en fait, c'est un mépris vis-à-vis de tout le monde, et notamment de ses propres joueurs. Et pour moi, ça change tout, parce que même si la mutinerie reste indéfendable, je pense que ces joueurs étaient complètement abandonnés par un management qui était complètement défaillant. Et moi, la question que je me pose maintenant, c'est comment ça se fait que Domenech continue à aujourd'hui être une voix médiatique dans le foot français après ça.
Une voix médiatique, tout ça, tu peux rappeler où est-ce qu'il est une voix médiatique?
Justement, c'était la suite que je voulais donner. Et est-ce qu'on a vraiment tout compris à ce qui s'est passé autour de cette équipe, et notamment la taupe? Et tu auras compris, Daniel, que mes deux questions sont corrélées.
Alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut rebondir à ce qu'a dit Kim?
C'est quoi la question?
Il n'y a pas vraiment de question. C'est un constat que fait Kim sur la suite pour Domenech. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il devrait encore.
Ce qui est certain sur.
Non, mais c'est quand même troublant. C'est quand même troublant qu'il soit que le seul média où il ait pu aller travailler, c'est l'équipe, qui soi-disant l'a mis dans la merde en 2010 en balançant cette une-là. Je sais pas.
De toute façon, moi ça je ne jugerai pas parce que je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre quand tu regardes le doc et puis quand tu as suivi l'équipe de France de toute cette période, c'est que Raymond Domenech, contrairement à Didier Deschamps, qui quand même on peut aimer ou pas aimer ses compos, mais c'est un grand manager, c'est un très bon sélectionneur. Raymond Domenech, Raymond Domenech, il a fait une finale de Coupe du Monde, comme le disait notre auditeur. Mais honnêtement, je suis désolé de le dire, mais il est nul en fait. Il est nul dans le management. Même 15 ans après, il n'a même pas l'auto-analyse nécessaire pour se dire ce qu'il aurait pu faire de mieux ou pas. Et c'est ça qui est quand même un peu triste.
Moi, ce que je trouve fou dans le doc, c'est qu'il ne se met jamais à la place des joueurs. Il n'a empathie.
L'empathie, c'est la première qualité du manager.
C'est vrai que c'est une des choses sur lesquelles moi, personnellement, et c'est à sa titre personnel, j'ai été un peu surpris. C'est que nous, on l'a donné le strapontin pour pouvoir faire son mea culpa et donner ses regrets. Pourtant nous qu'on a échangé avant le doc, c'était l'une de ses envies de pouvoir donner sa part de vérité, mais aussi de pouvoir donner les regrets qu'il avait pu avoir par rapport à sa gestion. Il est clair et je pense qu'il a établi qu'il y a eu une vraie défaillance de leadership, pas que de lui.
Ah non, le président de la
pas que de lui, ça il faut le
pauvre Escalette, il est complètement dépassé.
C'était pas évident d'être dans cette situation. Il a pas forcément eu toutes les armes, c'est pas que j'essaie de le défendre, mais il a pas forcément eu toutes les armes quand il est parti dans cette conquête de cette Coupe du monde. On lui dit clairement qu'il va pas être reconduit. Les joueurs ne sont pas vraiment d'adoupas à son idée, à sa stratégie. Je pense que c'est même de là que vient
C'est quoi son idée? C'est la question aussi.
Justement, nous les joueurs, on dit qu'ils comprenaient pas forcément ce qu'ils voulaient comme schéma.
Mais oui, il y avait toutes les les incompréhensions, voire limite les disputes sur est-ce qu'on fait du marquage individuel ou marquage en zone sur les corners. Ils étaient d'accord sur rien, ni sur la tactique, ni sur rien. C'était pas l'entraîneur de cette équipe de France. Même en 2006, on le sait que ça ne l'était pas.
Alors, François, j'ai des séances.
Non, rapidement, oui, à Clairefontaine. Mais je leur racontais ça. J'ai assisté à des séances où les joueurs l'apostrophaient en disant coach, on comprend pas.
Ouais, c'est ça.
On comprend pas qu'est-ce que sur les coups de pied arrêtés principalement, on comprend pas ce que vous attendez de nous.
Alors, il y a encore des récupérations politiques.
Et la réponse, c'était démerdez-vous.
Oui. Kevin, ne t'inquiète pas.
Et il y a le fait que Bernès et Deschamps étaient au courant pour la grève.
Alors ça t'y reviens dans une seconde. On finit sur la grève, parce qu'il y a aussi le communiqué dont on n'a pas parlé. La recherche de la taupe. Il y a un truc dans le documentaire quand même important, puisqu'il y a une taupe désignée à la fin du doc. Et puis effectivement la récupération politique. On a encore une demi-heure à parler de Naïsna dans l'after. On remercie Kim d'être venu au 32-16. À tout de suite.
RMC, l'after foot.
Jean-Louis Tour.
23h37, l'after continue avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo, notre spécial Naïsna jusqu'à minuit avec François Manardo et le coproducteur du doc sur Netflix, Stéphane Kamga, qui est avec nous. Alors, il y a encore des aspects à aborder, bien sûr. Je rappelle encore une fois quand même que toutes les personnes incriminées, Raymond Domenech en tête, sont les bienvenus sur RMC pour se défendre, pour s'expliquer. Après tout ce qu'on dit depuis 22 heures, c'est la moindre des choses.
Je serais ravi de revenir s'il décide de venir sur votre plateau pour pouvoir échanger avec eux, avec grand plaisir.
On a eu un message de Nicolas Nelka depuis le début de l'after qui nous dit pourquoi il n'a pas parlé, pourquoi il a mis autant de temps à parler. En 2010, les Français n'étaient pas prêts à entendre la vérité. En 2026, ils l'ont, cette vérité. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas voulu s'exprimer, tous ces joueurs, à ce moment-là.
C'est à peu près ce qu'on disait
tout à l'heure. Alors, il y a encore des trucs dont on n'a pas parlé. Donc, la grève, le sentiment d'injustice, les joueurs qui veulent partir. Et là, j'avais des détails déjà que Patrice Evra avait déjà un peu raconté, notamment Raymond Domenech qui prend les clés du bus, parce que le bus, c'est ça aussi qui a provoqué la folie, c'est que le bus, les joueurs décident de repartir, mais le bus ne part pas. Il reste un long moment et c'est ce qui provoque cette attente l'après-midi. Parce que donc Domenech prend les clés.
Parce que en termes de logistique, c'est pas des champions, les joueurs.
Bah Domenech non plus.
Mais ils n'ont pas pensé une seule seconde qu'il n'y en avait pas un qui avait son permis pour conduire le bus et qu'il fallait compter sur le chauffeur. Et Raymond demande à Mohamed Senadji, qui est le responsable de la sécurité, qu'il prenne les clés du chauffeur. Donc le chauffeur, il était là comme un con avec son volant.
Oui. Louis Jacobus, effectivement, qui était le chauffeur de ce bus.
Comment s'appelait-il ?
Jacobus.
C'est pas vrai.
C'est une blague. Jacobus ?
Oui.
Ah, il s'appelait Jacobus, vraiment.
C'est pas possible, ça. C'est l'une des personnes.
C'est incroyable.
Donc, le finalement.
Très charmante de Laurent.
Le bus part, mais avant, il y a l'épisode du communiqué. Donc ça, il en est question aussi dans le doc, puisque donc on comprend, c'est là où Domenech a cette fameuse phrase, j'ai récupéré un papier, on m'a dit que ça venait des joueurs, au début j'y croyais pas parce qu'il y avait pas de faute d'orthographe. Finalement, il va lire, mais c'est toi François qui aurais dû le lire. Enfin en tout cas, les joueurs te demandent d'abord à toi.
Non, pardon, Patrice me demande de le lire. Et donc moi, quand je comprends que le communiqué, il est contre l'équipe de France, contre la fédération, donc qui est accessoirement mon employeur, je refuse de le lire. Et je vais m'obstiner à refuser de le lire.
Tu l'as gardé quand même.
Parce que, alors je le récupère, parce qu'en fait il passe dans quelques mains. Et à la fin, il se trouve que c'est moi qui le récupère. Donc c'est une partie de ma vie, comme c'est une partie de la vie de Raymond, des joueurs, de Robert Duverne, etc. Bon, il se trouve que c'est moi qui l'ai. Si ça en emmerde quelques-uns, comme je l'ai entendu sur Antenne sans flamme tout à l'heure.
Ah, Jean-Michel Larquet est un peu remonté.
C'est leur problème.
Alors, non, moi j'ai une question pour Stéphane là-dessus. Oui. On est d'accord que là, Raymond Domenech, il joue un peu la comédie, non? Sur la fin du doc.
Ah non, non, alors. Vraiment,
c'est très spontané là, quand il découvre que c'est François qui a gardé le communiqué. Non, mais je pense que les gens ils vont aller le regarder quand même. Hein. Ça va rien changer.
Non, mais effectivement, il faut laisser peut-être le soin aux gens de le découvrir dans le doc. Mais ce que je peux dire de Raymond par rapport à ce passage. Et c'est un échange même qu'il a avec moi, si vous voulez tout savoir.
D'accord, ok.
On discute.
Ok.
Et il est vraiment étonné. Il ne sait pas qu'il a. Il ne sait vraiment pas qu'il a, et son expression, elle vient du plus profond de ses entrailles.
On a dit qu'il a pas fait de mea culpa, mais faut quand même dire que, il dit qu'il aurait dû laisser partir le bus.
Oui, de pas
provoquer. Et il dit aussi qu'il aurait, en tout cas, après avoir parlé avec sa fille, et ça, c'est un moment assez touchant, où il dit que là, c'est là où il se rend compte, en parlant avec sa fille, qu'il aurait sûrement pas dû lire le papier non plus.
C'est ça.
Ça, c'est les côtés aussi où tu vois quand même que Domenech, ça reste un humain, et ça reste aussi quelqu'un qui a fait des erreurs.
L'humain, son naturel, Kevin, il reprend, tout de suite du poil de la bête, parce que le lendemain, il censure Patevra, parce qu'il veut absolument être le seul à pouvoir dire qu'il se dédouane complètement de ce qu'il a fait la veille.
Oui. Parce que finalement, à ce moment-là, la grève, certes, on a tous compris que Domenech était mauvais, mais la grève fait basculer l'histoire dans une autre dimension.
Totalement.
C'est les enfants capricieux qui deviennent des millionnaires grévistes, des sales mecs, des racailles, qui ne comprennent pas ce que c'est que de jouer pour l'équipe de France, de porter le maillot bleu. Ça prend cette dimension-là. Mmh. N'oublions pas que derrière cette histoire, on a des joueurs qui ont eu des vies brisées.
Totalement.
Gourcuff, il y a plein de joueurs qu'on n'a jamais revus réellement à un bon niveau, qui n'ont jamais encaissé toute cette histoire-là. En fait, suite la grève, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de joueurs tous d'ailleurs, qui ont dit qu'ils avaient reçu des appels de proches, de familles, qui leur disaient, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est un scandale, ne faites jamais un truc pareil. Il y a une unanimité, normale d'ailleurs, à ne pas comprendre ce mouvement-là. Eux, les joueurs, ont perdu pied, d'accord, tout le monde a perdu pied à Naïsna, mais tous les Français ici, et même la famille des joueurs, leur reprochent de faire ce truc-là. Et là, l'affaire bascule, Daniel. La dimension politique qui emmènera Thierry Henry chez Sarko, l'intervention de Roselyne Bachelot. Là, on est passé dans, là, on passe dans toute autre chose.
Ouais, mais ils le disent.
Coupé du monde dans des, enfin, je vous souhaite de jamais.
Ça rend fou d'être coupé du monde comme ça, c'est ça que tu veux dire?
Totalement.
Mais bah ouais, t'as pas vu Shining?
C'est un psychodrame. Moi, si je prends la rédaction
de RMC. Story aussi.
Si je prends la rédaction de RMC, que je vous isole pendant 5 semaines, les gars, avec sieste, repas et aller taper un peu au ballon, vous allez voir, vous allez péter un plomb au bout d'un moment. Hein,
c'est notre Coupe du Monde aux États-Unis que tu décris, là. Nous, ça va, on vit plutôt bien. Bon courage.
Non, mais si on joue avec Kevin, ça va. C'est l'électorat de son pied gauche.
Non, mais c'est important ce que tu dis, Daniel, par rapport à la grève. Tous les joueurs, effectivement, ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait. Une fois qu'ils sont rentrés à l'hôtel, quand les téléphones ont commencé à sonner, William Gallas nous le dit, sa mère le pourrit. Ouais. Sa mère le pourrit, ils se prennent un peu conscience. Et il faut aussi remettre les choses dans les contextes. C'est vrai que oui, c'est facile, hein, après coup, de dire ils auraient pu faire ceci. Ils ont 22 ans.
Oui, bien sûr.
Ils ont 22 ans.
Alors, ce qu'il y a dans le doc aussi, c'est une première piste solide que j'avais jamais entendue.
Non, mais ça, c'est pas une excuse. Hein. Ils sont assez adultes pour jouer en équipe de France et prendre les salaires qui vont avec. Cette excuse-là, je la reçois pas. Mais en tout cas, il y a des hommes qui sont plus âgés que 22 ans, genre Thierry Henry, qui sont restés sagement calés au fond du bus, qui n'ont pas bouffé.
Mais Thierry Henry, il est plus.
Et qui sont allés voir Sarko pour on ne sait quel motif. Tu l'as su, ça t'a demandé.
Ils ont été convoqués. Il a été convoqué par Sarko.
Ben d'accord, mais pour
ça reste entre eux. Je ne vais pas vous dire que je sais.
Il est allé et puis quoi en fait. Il s'est passé quoi?
C'est entre deux. Je pense que le jour où Thierry décidera d'en parler, il le fera savoir. Ouais. Nous, on n'a pas su. Et...
Il a proposé encore une belle preuve d'opportunisme de Nicolas Sarkozy qui a décidément tout raté dans sa carrière politique et notamment ça aussi.
On va se garder les dernières minutes pour la suite, la récupération politique et ce qui s'est passé, les sanctions, etc. Ouais. Juste un truc quand même dans le doc. Il y a une piste solide pour la taupe que j'avais jamais entendue. Moi, j'ai toujours entendu qu'il y avait plusieurs personnes, etc. Le point de départ, ce serait Franck Ribéry. C'est ce que dit Raymond Domenech. Oui. À tel point que Ribéry a répondu sur Instagram en disant « Mamma mia Domenech, je t'aime beaucoup, juste je garde la vraie histoire pour plus tard ». Donc c'est un démenti de Ribéry.
Oui, alors je ne sais pas, démenti, en tout cas il n'a pas dit que c'est faux, il dit « je garde la vérité pour plus tard ».
Il dit « je garde la vraie histoire », sous-entendu.
Non, mais Domenech, il a parlé au journaliste de TF1, Sébastien Barniaud à l'époque.
C'est ce qui est revenu, oui. c'est ce qu'on a recoupé de toutes les discussions qu'on a eues.
Et qui parle d'altercation, ce qui provoque l'enquête des journalistes de l'équipe derrière.
En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que Franck, mais vraiment dans une discussion assez privée, assez personnelle, mais vraiment sans partir sur un dévoilage de scoop, il a cet échange avec Sébastien, qui je crois est quelqu'un qui est très proche de lui.
Totalement, oui.
Et c'est vraiment au détour d'une petite discussion de dire « Ah, ça a été chaud », comme le dit Raymond dans le documentaire. Derrière, Sébastien et tous ses confrères comprennent qu'il y a quelque chose à aller gratter et à aller rechercher. Mais il n'y a pas vraiment de top. Hein.
Est-ce que moi, je le dis, c'est la seule fois où je parle de moi directement, là, si vous me permettez, dans le documentaire, c'est que je dis qu'il n'y a aucune malice dans la démarche de Franck. C'est juste de la connerie.
Oui. Et d'ailleurs, Evra lui pardonne, entre guillemets, s'il y a quelque chose à pardonner tout de suite. Hein, et on l'entend. Oui. La dernière partie de notre spécial Naïsna, c'est dans une seconde. Notamment le double jeu, le double discours de Roselyne Bachelot. C'est assez terrible. C'est dans une seconde. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Jean Mitour.
23h47, l'after est là. Spécial Naïsna avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et nos invités François Manardeau et Stéphane Kamga, donc le coproducteur du doc Netflix. Alors, je voulais vous faire écouter donc Roselyne Bachelot, puisque ça aussi c'est très bien raconté, à quel point donc elle arrive en Afrique du Sud, avant le dernier match contre l'Afrique du Sud, elle fait une causerie aux joueurs, un discours. Patrice Evra dit d'ailleurs « Enfin, on a quelqu'un qui croit en nous ».
Elle est envoyée par Sarkozy. Hein.
Bien sûr. Evra dit « Enfin, on a un sélectionneur avec Roselyne Bachelot », puisqu'elle a le discours que les joueurs veulent entendre à ce moment-là, un truc pour les motiver, en disant je suis pas là pour vous juger, un truc comme ça. Certains ont les larmes aux yeux et tout, donc ils se disent super, avec Roselyne Bachelot on est bien soutenu et tout. S'ensuit le retour à Paris et son discours à l'Assemblée nationale.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je ne peux que constater comme vous pour le désastre avec un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois, une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés.
Elle nous crache dessus, c'est des caïds, des racailles, des joueurs apeurés. Elle a vu ça où ?
J'étais, honnêtement, comment tu viens, tu passes, tu t'en avec nous ? On est là, on te respecte. Tu vas à l'Assemblée, tu nous détruis comme ça ? C'est qui les caïds ?
C'était qui, en l'occurrence ?
Oh, j'aime pas beaucoup répondre à cette question. J'ai dit ce que j'avais à dire et tout va bien.
Voilà, Rosine Bachelot, qui était ministre des Sports et qui n'est pas à l'aise, du coup.
Mais ce qui est fou, en fait, c'est sa dernière phrase.
Bah, elle est
c'est
très
ses
à l'aise.
C'est ses derniers mots. Elle a dit, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Elle n'est pas à l'aise avec le double discours. La première, elle dit, je ne veux pas en reparler.
Elle n'est pas à l'aise parce que, mais elle dit quand même, et tout va bien. Et je reviens sur Nicolas Nelka. Mais tout va bien pour qui? Tout va pas bien pour les joueurs. Il y en a un qui est extraordinaire dans le doc. Bakary Sagna. Extraordinaire. Il a jamais fait de vague dans sa carrière, nulle part où il est passé. C'est quelqu'un de très intelligent, qui s'exprime très bien. Il n'a pas été protagoniste, en tout cas pour les gens extérieurs, mais il est juste, il parle à chaque fois de façon très posée, de façon très équilibrée. Et ce qu'il dit là, sur l'extrait, c'est exactement ça. Alors, elle parle très bien devant eux pour après les mettre six pieds sous terre devant l'Assemblée. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on reproche aux politiques.
Après Kevin, le fait qu'elle ne veuille pas...
C'est un truc qui m'a choqué.
J'entends ce que tu dis, le double discours et tout. Maintenant, le fait qu'elle ne veuille pas en reparler... Ça ne veut pas dire qu'elle regrette tout ce qui a été dit sur l'observation de ce qui s'est passé. Il faut peut-être aussi.
Attends, je comprends pas ce que tu dis, Daniel.
Ouais.
Bah, en fait, le fait qu'elle ne veuille pas en reparler, qu'elle ne veuille pas dire qui étaient les gens qu'elle identifiait comme les leaders face aux.
Moi, ça veut dire qu'elle assume, en fait.
Ah, pour moi, c'est qu'elle regrette justement ses propos.
Non, je suis pas complètement convaincu. Je pense qu'elle ne veut pas remettre de l'huile sur le feu en citant les noms ou en reparlant de ça des années après en disant c'est ces gens-là et tout. Parce que Rosine Bachelot a été, elle en a déjà reparlé plusieurs fois. Et des fois, elle disait, enfin, le peu qu'elle a su, parce qu'elle est arrivée là-bas, elle a été envoyée un peu en dernier moment. Oui, oui. Elle a pris l'avion la nuit, machin, elle arrive. On lui a raconté les trucs et elle a dit bon ben voilà, il y a des clans dans l'équipe. Le sélectionneur, il est dépassé, c'est le bordel. Ça, François, ça, tu le sais mieux que nous, ce à quoi elle voulait vraiment faire référence.
Attends, parce qu'il y a Stephen qui voulait dire un mot juste avant.
Les clans, ils existaient dans cette équipe.
Oui, mais là, de là à parler de caïds immatures face à des enfants apeurés.
Alors, je vais essayer de répondre à Daniel sur deux choses. Alors, les deux principales choses sur lesquelles elle ne se dédouane pas ou elle ne se dévoie pas, c'est que de dire qu'elle assume d'avoir un double discours. Elle se dit, je suis allé voir ces jeunes garçons pour leur donner un vrai discours d'encouragement pour qu'ils puissent faire le dernier match. Mais une fois que c'est fait et qu'ils rentrent, elle n'a aucun problème à les taper sur eux.
Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi.
Elle assume.
Elle a été super gentille parce que même les mecs, ils disent, elle était sympa avec nous, elle nous a motivés. Et elle en parle un peu comme de gros bébés. Elle dit,
c'est quand même.
Non, mais là, t'as raison. Là, t'as raison.
Tous les gens nous disent que. Enfin, on avait un leader devant nous.
Il y avait un leader devant nous qui venait,
qui nous parlait, qui nous faisait comprendre, qui nous donnait envie, qui nous rappelait qu'on avait encore un match et qu'on veut y arriver. Et chose qu'on n'avait pas avec notre sélectionneur.
Ça a pas suffi à gagner le dernier match.
Ça a pas suffi à gagner. Maintenant, effectivement, une fois, malheureusement, ils n'arrivent pas à se qualifier, elle redevient un animal politique et elle est descend. Par contre, à la fin, ce sur quoi elle ne veut pas répondre, c'est sur la question de se dire qui sont les caïds.
C'est juste ça.
Alors, sur laquelle elle va revenir.
Il faut quand même contextualiser en disant que c'était aussi une folie politique, ce qui se passait à ce moment-là. Le retour des joueurs au Bourget, c'est sous les insultes,
les menaces. N'oublions pas.
Marine Le Pen parle d'un apartheid au sein du vestiaire entre différentes personnes et tout. Donc il y a un fond de racisme aussi derrière.
Les Bachelot ont bien aidé Le Pen là-dessus. Les caïds immatures, voilà, qui ont une référence dans ce pays.
Au niveau des sanctions, Nicolas Nelka prend 18 matchs de suspension.
C'est une blague.
Quand même incroyable pour des propos qu'il n'a pas tenus. C'est sidérant. Et Daniel, tu avais identifié aussi un ou deux trucs pas forcément mentionnés. Moi, il y a un truc d'ailleurs que je trouve étonnant et qui n'est pas un mot dessus, c'est Eric Abidal qui. Alors déjà, on ne parle pas du tout de lui.
Qui refuse de jouer.
Et qui refuse de jouer le dernier match. Ça, c'était un
non, le truc qu'on n'a pas dit, je ne sais pas si Stéphane a pu en parler avec les gens et tout ça, c'était. On a dit tellement de choses, ça se trouve, on l'a dit. Le fait que Bernès et Deschamps étaient au courant la veille de la grève et tout, on en a parlé, ça, je ne sais même plus, je suis un peu perdu.
Non, on n'a pas parlé, mais je peux vous répondre dessus. Nous, on a dû. En fait,
ouais, vas-y.
Au risque de me répéter, nous, dans ce document, on donne la parole qu'aux gens qui ont bien voulu parler. On ne met pas de propos dans la bouche de qui que ce soit. Ça veut dire que si François Malardo n'était
pas là. C'est Ribéry qui les avait prévenus parce qu'il était avec Bernès à l'époque, non?
Je ne sais pas.
Il y a plusieurs joueurs.
Bernès
avait plusieurs joueurs.
Voilà. Oui, non, mais ça qu'il en avait plusieurs, oui, mais celui qui l'a dit, c'est peut-être
d'accord.
Donc, ils ont assisté au spectacle.
Mais tu dis, ils étaient au courant, Daniel, sous-entendu quoi? Ils savaient qu'il y aurait grève le soir et ils en ont parlé à personne? Ils n'ont pas essayé d'éviter le truc? Qu'est-ce que ça implique qu'ils soient au courant?
Non, j'avoue que de quelle façon aurait-il pu intervenir?
Non, mais Laurent Blanc est au courant aussi, alors que le contrat est déjà signé.
Non, mais peut-être. Excuse-moi. L'agent de certains joueurs, puisque certains étaient au courant, puisqu'il y a même un avocat qui a fait la lettre, ce sont quand même des gens responsables. Au moment où eux ont été insultés par la France entière, sont revenus en prenant des œufs sur les bagnoles, ont été traités de tous les noms en rentrant. Excuse-moi, mais si t'es l'agent qui est censé conseiller, qui est censé être plus intelligent, t'as le droit de dire, ne le faites pas.
Oui, totalement. Et
t'as quand même le droit d'intervenir en disant ne fais pas, c'est une immense connerie. Daniel. Sauf si tu trouves que c'est bien de foutre le bordel parce que tu sais que l'un des tiens va récupérer l'équipe derrière.
À la décharge.
Sauf si tu sais que tu vas pouvoir profiter du truc.
À la décharge de tous les entourages qui étaient, que ce soit les agents, les frères, ils ont échangé, beaucoup de gens ont échangé avec la famille. Mais là, ils étaient pour la première fois unis sur cette idée de pas de sauver mais de réhabiliter le soldat Nicolas Anelka. Qui que ce soit, de ce qu'on a compris.
Oui, alors qu'il soit, pardon, Stéphane, soit uni. Je le dis parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Et Robert Duverne le dit très bien et je souscris complètement à ce que dit Robert. La contestation, la protestation sur l'exclusion, on la comprend et on la comprenait à 1000%.
Oui,
l'erreur, c'est de refuser de s'entraîner. Les deux couillons à Paris, il n'y en a pas qu'un, Daniel, ils sont deux. Et il y en a un, et j'étais dans l'after à cette époque-là, quand Le Monde révèle... Enfin, ils disent pas c'est lui, mais ils disent qu'il y a un faisceau d'indices suffisamment important pour dire que, à part Stéphane Courgeon, qui est le conseiller de Jérémy Toulalan, l'autre personne, c'est probablement Thierry Braillard. Sauf que Thierry Braillard, il était ministre des Sports quand Jérémy Toulalan livre sa dernière interview en France, où il dit qu'il y a un nom aussi, dont il doit taire justement l'identité, derrière la rédaction du communiqué des joueurs. Il y a deux personnes à Paris qui, elles, sont pas dans le psychodrame en Afrique du Sud qu'on est tous en train de vivre, qui sont censées avoir du sang-froid, de la lucidité, et dire aux joueurs, ok, vous voulez protester, protestez, faites un communiqué, mais allez vous entraîner, ne refusez pas de vous entraîner.
Et c'est qui ces gens-là, François ?
Donc Stéphane Courgeon, ça, on le sait parce que lui-même l'a reconnu en 2011 dans France Football, au regretté journaliste, malheureusement, j'oublie son nom, Xavier qui a disparu, et selon les révélations du Monde dont on avait parlé dans l'after, si tu te souviens, en 2015, Daniel, Thierry Braillard, qui était lyonnais. Il y avait beaucoup de joueurs aussi qui étaient de l'OL, le rôle de Jérémy Toulalan, de Sébastien Schillaci.
On arrive au bout, je vous le dis. Tout ça a été passionnant. J'ai une dernière question pour François. Est-ce que tu as prévu de porter plainte contre Raymond Domenech pour insulte publique?
Oh non.
Pour sa réaction sur le communiqué quand il a
fait ça. Mais c'est un compliment dans la bouche de Raymond.
Ah, très bien. Bon, d'accord. Bah, tu dois être dans le journal intime aussi.
Sûrement, Stéphane.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, François.
Je te dirai en off.
D'être revenu. Merci, Stéphane, d'être venu
merci
aussi.
Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir.
Beaucoup. On vous renvoie sur Netflix.
Merci, les amis. Hein,
le bus, les Bleus en grève. Donc, pour revivre cette période-là du plus grand fiasco de l'histoire du sport français.
Si je peux même juste me permettre, je voulais juste remercier Nicolas Vallade et Johan Zerbi, qui sont les coproducteurs de chez Brefilm, avec qui nous avons travaillé sur ce super projet, et rétablir cette petite vérité. Oui, Jérôme Saporito, à un moment, a essayé de faire ce documentaire, mais à aucun moment nous l'avons dépossédé de la paternité de cela. Nous avons mené nous-mêmes notre propre ambition de le faire. Okay. Il s'avère que Netflix a a grandement abondé à notre projet. Et en chemin, on a rencontré Jérôme et aujourd'hui, on a pu faire ce documentaire quelque part aussi grâce à lui.
Je sais à quel point le sérieux dans le travail, j'en sais quelque chose. On s'est vu 4 fois.
Merci à vous deux. Si vous êtes arrivés en cours de route, le podcast de l'After va être dispo très bientôt. Merci Daniel, merci ciao. Kevin. L'After est de retour demain, bien sûr. Et toutes les infos, je vous rappelle, autour de la liste des Bleus du rassemblement qui débutera le 29 mai, on vient d'avoir l'info, sont sur rmcsport.fr. Dans une seconde, les nuits du Casar enchaînées. Ciao.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.